Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Le multi-Ligue 1 avec à 17h les coups d'envoi des trois rencontres. Nice-Monaco, le derby, Strasbourg-Nantes et Montpellier-Toulouse. Seb Piocel avec moi pour cette Intégral Foot. Salut Seb.
Salut Marina, bonjour à tous.
Et coach Courbis également qui est toujours là. Salut coach, pour suivre.
Oui, c'est un match un petit peu avec des prolongations, des rallonges, il y a un petit peu de tout et des buts bizarres.
Des buts bizarres, on est sur Lyon à JA bien sûr, hein, puisqu'il s'éternise ce match de 15h avant les coups d'envoi des matchs de 17h. On va bien sûr aller sur les autres terrains dans un instant, mais tout d'abord Edouard G, on revient vers toi parce que là on est vraiment dans les dernières minutes et que le suspense est toujours là, Lyon à JA.
Exactement, bonjour à tous, Marina, Seb et Rob. Bonjour coach. Il reste 4 petites minutes plus le temps additionnel, 2 partout avec une action là pour Wilfried Zaha qui est dans la surface de réparation. Il va centrer derrière avec le retour de Ryan Cherki, mais il perd le ballon avec un défenseur bourguignon qui s'est sacrifié pour la patrie dans la surface de réparation. Ça va faire un nouvel arrêt de jeu dans cette partie qui n'en a pas manqué.
Cherki a son mot à dire là, comme joker qui rentre plein de fraîcheur avec la possibilité de trouver des solutions en dribblant et pourquoi pas trouver un coup franc dangereux, voire un penalty. Donc c'est vrai que Lyon mise sur Cherki pour la fin de ce match.
Voir sur Zaha qui est rentré. On sait que Wilfried Zaha, c'est quand même l'attaquant voulu et recruté par John Textor. Et d'après nos oreilles, ça n'avait pas plu au président propriétaire jeudi soir que Zaha rentre assez tardivement dans le match. Donc là, il est rentré à la 77e minute pour pourquoi pas faire la différence dans cette partie. Toujours deux partout. Ryan Cherki qui est pris à l'entrée de la surface de réparation. Les Auxerrois qui se dégagent comme ils peuvent. Le ballon qui va peut-être revenir avec Jordan Verretou, Niakate qui a pas trop de solutions. Il va jouer de façon latérale sur Doulé Caleta. Puis Nicolas Tagliafico, les Lyonnais qui sont toujours dans leur propre camp. On n'arrive pas à trouver de la profondeur. Il reste 3 minutes plus le temps additionnel. Allez, au moins autant. Donc voilà, 6 minutes, 3 minutes sûres, plus quelques minutes de plus pour pourquoi pas qu'une équipe ne gagne dans cette partie qui pour l'instant ne trouve pas de vainqueur. 2 partout.
Seb, ce match on le regarde depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu un gros arrêt de jeu à la première période. Ça s'étire là, tu le sens comment là, la dynamique actuelle de ces deux équipes, tu penses que ça va passer de basculer d'un côté ou d'un autre?
Ouais, bah, j'aurais plutôt imaginé Auxerre faire le coup, mais parce que je vois pas les Lyonnais, malgré les changements, ils n'arrivent pas non plus à forcément emballer la rencontre. Les Auxerrois, ils sont bien en place. Je serais pas surpris que ça reste sur ce deux partout.
Et ça chauffe encore, Edouard, sur le but auxerrois.
Ouais, ça chauffe sur toujours deux partout. Hein. Il reste 2 minutes 15. Ce centre qui va trouver Malik Fofana, mais finalement qui trouvera un auxerrois. Du coup, ça nous donne un corner, le cinquième corner lyonnais de cette partie. Deux partout, les Lyonnais qui ont toujours mené dans la rencontre, mais qui se sont toujours fait remonter. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Et on va voir ce que ça va donner, ce corner pour Taner Tesman au premier poteau. Le ballon qui voyage, qui est dégagé une deuxième fois par, je crois que c'est Sinali Diomandé, qui s'est bien signalé pour ses couleurs, lui l'ancien lyonnais, avec Ryan Cherki en position d'ailier gauche. Il va centrer, cette balle est bonne, mais elle est bonne aussi pour la défense bourguignonne qui va pouvoir essayer d'être encore très attentif parce qu'un deuxième ballon va venir avec Malik Fofana. Léon qui va venir pour dégager le ballon, une petite faute sur Zaha, non, indique Jérémy Stinat, et du coup ça va partir en contre, mais un contre rapidement manqué
à Strasbourg.
Les Auxerrois et les Lyonnais qui vont pouvoir repartir. Il reste une grosse minute plus le temps additionnel indiqué dans quelques secondes, toujours deux partout.
Allez, c'est pas fini Edouard, on reste avec toi jusqu'au bout bien sûr, mais ça y est, les trois autres matchs de 17h sont partis. Nice-Monaco, c'est le derby de la Côte d'Azur. Salut Maxime Tilliet, t'es avec nous.
Salut Marina, salut Seb, bonjour à tous.
Salut,
bonjour coach. Avec une info de dernière minute, le capitaine monégasque Denis Zakaria forfait à son tour. Décidément, on avait appris il y a une grosse heure le forfait côté niçois de Jonathan Clauss. Ouais, coup dur pour les Monégasques.
Très mauvaise nouvelle.
Ouais, mauvaise nouvelle
pas pour les Niçois, hein, pour les Monégasques. Pour les Niçois, c'est une très bonne nouvelle.
Ouais, les Niçois qui comptent déjà 10 points de retard hein, sur les Monégasques et qui doivent se reprendre assez rapidement.
Qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'ai pas entendu.
On n'a pas le détail encore, mais c'est vraiment dernière minute puisqu'il était annoncé titulaire et capitaine sur la feuille de match. Et finalement, c'est Sunguntu Magasa qui est aligné au milieu de terrain aux côtés de Lamine Camara. Et pour sur cette première minute 30 de jeu ici, en tout cas, ce sont les Monégasques qui monopolisent le ballon.
Les Monégasques devant au classement, devant pour l'instant en domination en termes sur le terrain. Les deux autres matchs de cet après-midi avec il y a également Strasbourg-Nantes et Montpellier-Toulouse. Un petit détour par Strasbourg. Sébastien Ruffet, c'est toi qui nous commande ce match. Salut.
Salut tout le monde. Racing Nantes, deux équipes du milieu de tableau et qui peuvent justement, si elles veulent nourrir quelques ambitions, eh bien, il faudra gagner cet après-midi pour l'un comme pour l'autre. Hein. Même nombre de points, 10 points pour les deux. 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites pour les deux. Voilà, c'est un parcours à peu près identique avec deux équipes qui ont perdu énormément de points après avoir ouvert le score. 7 points pour les Strasbourgeois, 9 points pour les Nantais, donc deux équipes qui pourraient être bien plus haut dans ce classement. Mais maintenant, voilà, on verra si deux équipes ouvrent le score, si elles parviennent enfin à le garder. Attention juste sur les compos, on reviendra, mais absence, en tout cas choix d'Antoine Comboiré de se passer et de Pedro Chirivella et de Joël Le Penant, qui sont pourtant deux joueurs très très importants de son milieu de terrain, pour mettre Jean-Philippe Pamin à la récupération et Tino Kadewere en soutien de Mostafa Mohamed. Pour le reste, on verra plus tard, mais en tout cas c'est vraiment un choix très fort là d'Antoine Comboiré pour ce début de match.
Le corner pour les Auxerrois. Nous sommes rentrés dans les 8 minutes de temps additionnel. Ils avaient égalisé tout à l'heure sur un corner. On va suivre ça avec Sinayoko, ce ballon dans la surface de réparation. Le ballon qui voyage, qui va être dégagé. Les Auxerrois demandent une main, mais l'arbitre qui ne bouge pas pour le moment. Il va y avoir peut-être un deuxième ballon pour les Auxerrois, même s'ils reviennent sur leur pas. Et oui, après les 15 minutes, Marina, tout additionnel de la première période, les 8 minutes, allez, ils ont demandé, il y en aura encore, il y en aura 8.
Il est bien Roland en studio, là, tranquille.
Voilà, exactement, là, pour l'instant, eh bien, 8 minutes de temps encore dans cette partie, peut-être pour départager.
Il aura duré 2 heures, en fait.
Énorme, ce Lyon Agia, qu'on continue de suivre avec toi, Edouard. Merci. Montpellier-Toulouse également, qui a commencé à 17h avec Julien Landry. Salut Julien.
Salut Marina, salut à tous. Ça a parti depuis 3 minutes. Et les gens qui ont suivi le match de rugby hier avec des conditions apocalyptiques, ils vont pas être déçus. C'est les mêmes conditions pour le match de foot ce soir. Une pluie torrentielle qui tombe sur la Mosson depuis une demi-heure. C'est assez impressionnant, hein, la quantité de pluie qui est en train de s'abattre sur la pelouse. Pour la première de Jean-Luc Gasset, peut-être la première situation dans la phase de réparation, le ballon qui traîne. Et le premier choix, en tout cas, c'est évidemment le retour, on va dire, des bannis de Michel Azakarian. Wabi Kazri et Jordan Ferry titularisés ce soir. Et surtout, TJ Savanier qui joue devant la défense. Michel Azakarian l'avait positionné en numéro 10. Et bien là, c'est un 4-1-4-1 avec TJ Savanier juste devant la défense et 4 joueurs devant lui. Voilà le premier choix fort de Jean-Luc Gasset. Le retour des cadres et un repositionnement de TJ Savanier qui a toujours le brassard. J'espère que ce match va aller à son terme parce que vraiment les conditions sont très très difficiles ici à la Mosson. 4 minutes de jeu, 0-0.
0-0 pour l'instant donc sur ces 3 terrains de Ligue 1. Il y a également du tennis, une finale, le tournoi de Bâle avec un Français qui est en train de disputer cette finale face à Ben Shelton. C'est Mpetshi Pericard. Eric Salio, tu nous commandes ce match. Salut, on en est où?
Salut, ouais, ça se rapproche peut-être pour Giovanni Mpetshi Pericard puisqu'il mène une manche à 0 face à Shelton. 6-4, ça on savait. Et on est dans le tie-break de deuxième set. Il y a 2 points à 1 pour le jeune Lyonnais. Donc dans 3-4 minutes, peut-être que j'aurai une balle de match à vous annoncer.
Eh ben, on reviendra vers toi dès que ça sera sur le point de se conclure. Allez, Lyon AGIA, il reste 5 minutes à peu près, Edouard.
Exactement, dans le temps additionnel, dans l'entrée de la surface de réparation, le centre peut-être de Zaha, le ballon qui va être dégagé vraiment à l'emporte-pièce, mais ça fait du bien, le ballon qui va revenir.
Et l'ouverture du score, et signalé en position de hors-jeu, les Toulousains, ils pensent avoir, mais l'arbitre a levé vite son drapeau. Position de hors-jeu, toujours 0-0.
On est dans les dernières minutes, hein, 4 minutes 30 encore dans le temps additionnel. Et oui, il y en avait eu 15 en première période, 8 en deuxième, 2 partout pour le moment. Avec ce centre, cette longue passe de Ryan Cherki pour Echlemet Nonnaz qui vient de rentrer dans la surface de réparation. C'est grillé la politesse là, entre Alexandre Lacazette et Ryan Cherki pour récupérer le ballon. Et finalement, eh bien, ce sont les Auxerrois qui l'ont gagné et ils vont le conserver sur une touche. Le temps tourne pour eux qui pour l'instant n'avaient ramené aucun point de leurs 4 précédents déplacements, notamment un 3-0 net et sans bavure à Saint-Etienne. Et bien là, ils font une belle prestation, 2 partout donc pour le moment. Il reste 4 minutes dans le temps additionnel.
4 minutes dans le temps additionnel entre Lyon et la GIA, Seb.
Ah non, ouais, je regardais pardon, la position de hors-jeu sur le match
du Toulousain.
De Montpellier-Toulouse, qu'a priori, enfin moi sur le ralenti, ouais, je voyais pas hors-jeu hein, sur le tout départ.
Non, mais ils sont en train de discuter au VAR, Seb. Moi non plus, sur le ralenti qu'on vient de voir, je ne vois pas.
En plus, je crois qu'il y a au moins 5-6 passes hein, après la première position là, qui est.
Ouais, exactement, je pense qu'ils estiment la position de hors-jeu au tout départ, mais moi au tout départ, je pense qu'il est parti vraiment dans le dos.
Malik Fofana, le ballon dans la surface de réparation.
Et le but est validé. Le but est validé pour les Toulousains. Alors, ça, c'est des scènes incroyables parce qu'après deux minutes, du coup, bah, tous les Toulousains se regroupent pour féliciter le buteur. C'est Abouklal qui a ouvert ce score sur une très belle combinaison. On est parti dans le dos, ça a décalé sur le côté. Le centre à rentrée, 1-0 pour les Toulousains. Après 6 minutes de jeu, le but signé Abouklal. 1-0 pour le TFC.
Abouklal qui était en difficulté la semaine dernière, on se rappelle toutes ces occasions.
La première grosse occasion pour Strasbourg ici avec la frappe à terre de Habib Thiara, bien détournée par Alban Lafont.
Parade de Lucas Perry sur cette balle qui allait signifier peut-être le 3-2 pour les Auxerrois sur ce tir d'ado. Il sauve la baraque. Lucas Perry à la 90 plus 5. On était tout près du 3-2 pour Auxerre. Peut-être à suivre puisqu'il va y avoir un corner. Ce match n'a pas décidé de son vainqueur. Déjà le tableau d'affichage le dit de partout. Mais pourquoi pas l'énorme surprise. Les Auxerrois qui n'ont pas gagné de match pour le moment et qui n'ont même pas rapporté de points de leurs 4 précédents déplacements. Et si le promu faisait une mauvaise blague aux Lyonnais. On va suivre ça avec Sina Yoko là, qui va tirer ce corner. Nous en sommes à 90 plus 6. C'est une balle presque de match là pour les Auxerrois. La balle dans la surface de réparation. Cette balle dégagée de la tête par Nicolas Tagliafico, mais ça va peut-être revenir par Ouvert qui va centrer un long ballon. Attention, l'arrêt. Le ballon, la tête finalement de Ado qui est directement sur Lucas Perry qui s'était un petit peu manqué.
Heureusement qu'il ne centre pas. Heureusement qu'il ne tente pas la remise. Bon, elle n'est pas facile parce qu'il recule, mais s'il la met en retrait, là, il était tout seul.
Exactement, parce que là, cette balle, il l'avait mal appréciée, la trajectoire, Lucas Perry, mais finalement, il a sauvé la maison.
Et ça fait 2-0 pour le TFC. Le doublé d'Abouklal sur cette balle perdue par les Montpellierains devant la surface de réparation de Guillaume Rest. On est parti très vite en contre et Abouklal a pris le meilleur sur le jeune. On en a parlé, Yael Mwanga qui fait sa première titularisation ce soir en provenance de Bordeaux. On en rappelle les problèmes défensifs et Abouklal est parti dans la défense. Le face-à-face avec Benjamin Lecomte. Et là, il y aura peut-être position de hors-jeu cette fois-ci. Seb, tu vas le revoir, le ralenti tout à l'heure, j'avais un doute. Ouais. Mais là, je pense que ça va être checké à la VAR parce qu'Abouklal, ouais, oui. Il me semble qu'il est devant le Toulousain sur cette excellente passe par contre de Djibril Sidibé dans le dos d'Abouklal. Le premier, ils l'ont pas célébré et ils l'ont célébré après coup. Et moi, je pense que celui-là, il fallait pas le célébrer parce qu'il va y avoir position de hors-jeu. À mon avis, on va en rester à 1-0.
Voilà, pour les Montpellierains, parce que
ouais, sinon, là, t'imagines 2-0 après 10 minutes de jeu alors qu'ils en ont pris 5 dimanche dernier contre l'OM. Ça serait vraiment une entame catastrophique pour Jean-Luc Gasset. Celui-là, je pense qu'il va être en position d'or.
C'est terminé également le tennis avec toi, Eric Salio. On revient vers toi.
Le titre pour Giovanni Impecci-Péricard, le plus gros titre de sa carrière. Victoire 6-4, 7-6 face à Ben Shelton sous les yeux des parents de Roger Federer qui a gagné 10 fois dans cette salle. Giovanni Impecci-Péricard, retenez ce nom, 2m01, 100 kilos. Un mec qui sert comme un dieu et il va débouler à Bercy avec une énorme pancarte dans le dos. Quelle bouffée d'oxygène pour le tennis français.
Ah oui, un des nouveaux espoirs bien sûr du tennis français. Merci beaucoup Eric Salio.
Et ça fait 2-0 Marina.
Et ça fait 2-0 du côté de Montpellier-Toulouse. Il est validé alors le but ?
Ouais, il est validé après l'arbitrage vidéo. Doublé d'Abouklal en à peine 10 minutes. Jean-Louis Gasset qui voulait un état d'esprit irréprochable, qui voulait au moins ne pas prendre de but. Et bien les Montpellierains en ont pris 2 en à peine 10 minutes. 26 buts encaissés depuis le début de la saison. Ça fait déjà du coup maintenant 28. Et les Montpellierains qui ne défendent pas du tout. Et là, Tévis Savagnier qui est venu mettre une petite semelle derrière pour essayer de mettre un peu d'intensité. Début de match cauchemardesque pour les Montpellierains, menés 2-0 après 10 minutes.
Et du côté de Lyon, Edouard G, Lyon Agia, c'est voilà les derniers instants. Ça y est, c'est terminé.
Et c'est terminé, pas de vainqueur. Pourtant, Lyon a essayé. Lyon a mené 1-0 sur un pénalty bizarre à la 45e plus 4. Mais Auxerre a égalisé par l'ex-banni Sinali Diomandé à la 47e minute. Mikotadze a marqué le doublé. Donc, on pensait que le roi Georges allait enfin, lui qui a marqué, enfin donner une victoire à l'OL face à la GIA. Mais voilà, Diomandé sur un tir complètement manqué. Eh bien, il trouve sur la trajectoire son coéquipier Traoré qui trompe. Quelque part sans le vouloir, puisque le ballon lui rebondit dessus à contre-pied Lucas Perry. De partout, les Lyonnais ont essayé. gagner jusqu'au bout.
Pas de vainqueur.
Attention, Boulka, le sauvetage est derrière, c'est dégagé sur sa ligne par Tom Louchet. Les Monégasques qui se montrent très pressants en ce début de rencontre. Il y a eu un bon travail avec notamment Akliouche à la baguette qui a glissé le ballon. Le centre de Minamino est dévié et a failli lober, tromper Marcin Boulka qui sur le reculoir met la claquette comme il le faut juste sur sa ligne pour éviter le but.
Nice-Monaco avec Maxime Tillet.
Je disais pas de vainqueur, ok.
Entre Lyon et Auxerre,
mais pour moi c'est comme une défaite pour Lyon et c'est une petite victoire pour Auxerre. C'est pas tout à fait pareil. Là c'est deux points de perdu et c'est énorme parce que Lyon est en train de faire un bon parcours et là bon entre la défaite en Coupe d'Europe et ces deux points de perdu. Ben, il y a un petit peu une période de frein et on va attendre maintenant le match d'après de Lyon.
Ils ont été deux fois devant en plus, hein, ce qui n'était pas évident. Et surtout bah, pour Auxerre, je crois que Doudou, tu disais que c'est le premier point après à l'extérieur.
Ouais, exactement, ils avaient fait que perdre jusque-là.
Merci beaucoup, Edouard G. Merci, coach Courbis.
Salut, bonne continuation.
À très vite, merci. Bien sûr, les matchs de 17h, Seb, on reste ici pour les suivre ensemble. Petite page de pub et on revient pour ces trois affiches de 17h. Peut-être le temps, le score juste avant Nice-Monaco, c'est le derby, Maxime Tillet.
La 12e minute, 0-0 entre Nice et Monaco.
Strasbourg-Nantes, Sébastien Ruffet.
La 12e minute, un match vivant, mais toujours 0-0.
Et Montpellier-Toulouse, Julien Landry.
Le doublé d'Abouklal permet au TFC de mener 2-0 après 12 minutes de jeu.
Allez, à tout de suite, une pause et l'intégral foot revient sur RMC.
RMC, intégral foot.
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel et avec ces trois rencontres de l'après-midi de 17h, le derby Nice-Monaco. Pour l'instant, il n'y a des buts que sur la pelouse de Montpellier face à Toulouse. Mais on va commencer avec le derby. Maxime Tillet, Monaco plus fort pour l'instant sur le premier quart d'heure.
Oui, il n'y a pas photo. Francaise nous le disait hier, il y a trois niveaux d'écart entre ces deux équipes. Et pour l'instant, ce premier quart d'heure le reflète puisque ce sont les Monégasques qui ont la balle, qui se sont montrés les plus dangereux avec le sauvetage sur sa ligne de Marcin Boulka. Et en effet, il y a déjà 10 points d'écart au classement entre les Niçois et les Monégasques qui sont co-leaders du championnat avec le Paris Saint-Germain.
Ça fait 3-0 le but de King. Les défenseurs montpelliérains ne veulent pas défendre, tout simplement. C'est incroyable la passivité avec laquelle et la facilité avec laquelle les Toulousains rentrent dans la défense de Montpellier. 3-0 après 16 minutes de jeu. Benjamin Lecomte ne comprend pas, il est complètement abandonné par ses défenseurs. Bon, là il y aura hors-jeu, alors sauf si Sakho le couvre vraiment, ça ferait quand même 3 buts
c'est dur,
litigieux.
Même au ralenti,
je pense qu'il y a peut-être le bras de Falaï Sakho qui couvre ou pas, ça serait peut-être le but de King. Il va être checké lui aussi au VAR, c'est le troisième but.
Ça va être checké à la barre ici aussi à Nice, un potentiel pénalty pour les Monégasques. La remise de Caio Henrique sur ce centre qu'il reprend de volée et il y a Tom Louchet qui a le corps en opposition mais le bras légèrement décollé. Thilo Kerrer parle avec monsieur l'arbitre Jérémy Pignard.
Oh, but pour Strasbourg. Oh, quelle erreur de la défense nantaise avec ce ballon dans un deuxième temps après un corner qui revient par-dessus et je crois que c'est Nathan Zézé qui il a tout le temps d'avoir ce ballon de la tête et finalement il se baisse, il laisse passer ce ballon et André Santos, opportuniste, qui vient couper, qui vient battre de la tête Alban Lafont. Quatrième but de la saison pour le milieu brésilien et Strasbourg passe devant 1-0 à la 17e.
Hors jeu à Montpellier. Alors on en reste à 2-0. Soulagement pour les Montpellierains, mais il va falloir quand même se remettre la tête à l'endroit parce qu'ils sont en train de se faire marcher dessus par les Toulousains en ce début de match. 2-0, doublé d'Abouklal, 17 minutes de jeu.
Ouais, Et pas de pénalty à Nice.
Non.
Alors autant hier soir, il y a un pénalty qui a été accordé dans un autre derby du week-end entre Lens et Lille. Là, c'était bien plus flagrant, bien plus net, mais pour autant pas de pénalty. Monsieur Pignard était sur le corner, dégagé des deux points par Marcin Boulka et les Monégasques qui continue de mettre la pression. Le centre de nouveau au second poteau, cette fois-ci Minamino qui va essayer de la remettre. Il y aura un coup de sifflet dans la surface de réparation. La 18e, 0-0 entre Nice et Monaco, mais la SM pousse.
C'est pas le même, genre de main en fait. Je sais qu'hier tout le monde disait qu'il n'y avait pas forcément main, mais quand tu revois l'action ralentie hier, donc pour revenir sur la main de Danso, il me semble que c'est Bayo qui touche le ballon avant et ensuite que le ballon va sur la main de Danso, donc potentiellement il y a pénalty.
Les deux touchent le ballon et après Danso prend ça rebondit et il prend le ballon de la main, il me semble.
Après, il nous semble à tous, donc oui. ça dépend. Encore une fois, c'est une question d'interprétation. Moi, sur l'image d'hier soir, c'était l'idée que j'avais. Donc, pour moi, il y avait pénalty. Et là, sur cette action-là, Louchet, on voit quand même qu'il fait un mouvement de bras. Donc, il aurait pu être sifflé aussi. Bon, a priori, ça n'a pas été le cas.
Bon. C'est intense en tout cas ce premier quart d'heure, hein, sur tous les terrains, intense avec la douche froide pour l'instant pour Montpellier. Comment on peut analyser ça, Seb? On change d'entraîneur, on est au fond du seau et on ne sait plus défendre, on n'a plus de jus.
Ouais, alors pourtant normalement le fait de changer d'entraîneur, on a vu aussi qu'il y avait quelques anciens qui étaient revenus dans le 11 de départ, mais quand ça tourne mal, et surtout le premier but encaissé très très rapidement leur a fait du mal. Mais voilà, on voit que c'est une équipe qui est malade. Heureusement que ce troisième but, il n'est pas validé, parce que ça les laisse quand même toujours en vie. Il n'y a que 20 minutes de jeu finalement, mais il faut qu'ils montrent autre chose, notamment avec le ballon.
Ouais, mais le problème c'est qu'ils sont toujours pris dans le dos. Et avec la frappe encore une fois d'Abouklal, ils sont pris dans le dos. Alors est-ce que c'est une consigne aussi de Jean-Louis Gasset qui leur demande de défendre
haut? Mais
est-ce qu'il leur demande de défendre haut et de jouer le hors-jeu? Mais ils se font prendre à chaque fois dans le dos.
C'est pas le Barça pour jouer le hors-jeu.
Qui
leur demande d'être agressif, c'est-à-dire d'aller les chercher un peu plus haut. Et en plus, là, tu vois la météo, hein, t'es sur place.
Donc,
c'est pas évident, mais je trouve que le pressing, il est hyper mal fait. Il y a toujours un mètre ou deux de retard.
C'est bon, on y revient.
Ça va être, c'est compliqué pour eux.
On y revient. 2-0 pour Toulouse sur la pelouse de Montpellier. 0-0 dans le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco. Et Strasbourg qui mène 1-0 contre Nantes sur sa pelouse. Mélena Marjac, il arrive. Félix Lebrun, c'est une finale. Et c'est avec toi, Montpellier.
Oui, ça y est, Félix Lebrun qui vient d'entrer dans la salle, l'Arena Sud de Montpellier pour cette finale, sa première finale en WTT Champions, l'équivalent d'un Master 1000 en tennis. Il est opposé au japonais Tomokazu Harimoto, le 8e mondial. Félix est 7e mondial, numéro 1 français, numéro 1 européen, et aujourd'hui joue peut-être l'un des plus grands matchs de sa carrière. Certes, il y a eu les Jeux Olympiques, mais là on est sur un autre niveau également, et Félix depuis le début de cette semaine nous montre un très très gros niveau. Tout à l'heure il a éliminé le numéro 2 mondial, le chinois Lin Xinong, et là aujourd'hui et là maintenant ce serait au tour du japonais Tomokazu Harimoto, match qui va commencer donc dans quelques instants, tirage au sort et après un peu d'échauffement, et c'est parti.
On sera avec toi Léna bien sûr pour suivre cette finale au plus près. Une petite occasion niçoise peut-être de ton côté, Maxime?
Oui, sur une contre-attaque Boga qui a été trouvé par Mohamed Ali Chaud et Jérémy Boga dans la surface de réparation, qui fait le crochet, qui frappe, mais derrière elle sort pas bien de sa chaussure, la frappe malheureusement pour lui. En revanche, nouvelle situation peut-être avec Evan qui se présente, lancé face au but, c'est la principale menace offensive, mais il va se faire subtiliser le ballon par la défense monégasque, et donc toujours 0-0 entre Nice et Monaco, la 22e.
Et le temps, le score sur les autres pelouses, Strasbourg-Nantes, Sébastien Ruffet.
21 minutes de jeu ici à Lameno, 1-0 pour Strasbourg. Le but d'André Santos, c'est la 17e.
Il est passé, Minamino, il va pouvoir se présenter face à Boulka. L'arrêt, c'est bien suivi derrière par Brelem Bolo, l'attaquant suisse qui ouvre le score pour l'AS Monaco. Lui qui avait ouvert son compteur cette semaine face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, après plus de 800 minutes de disette sans marquer. Et bien voilà qu'il récidive et permet à l'ASM d'ouvrir le score chez le voisin niçois. 1-0 pour Monaco.
Il est beau, opportuniste, mais ça marche. Monaco qui mène donc sur la pelouse de Nice 1-0. Et le temps, le score sur la pelouse de Montpellier avec toi, Julien Landry, face à Toulouse.
22 minutes à la Mosson, 2-0 pour les Toulousains.
Allez messieurs, on revient tout de suite, l'intégral foot avec Seb Piocel. Bien sûr, on poursuit tout cela avec les trois affiches. Petite pause, on arrive.
RMC, intégral foot,
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel, avec les trois affiches de l'après-midi, ce derby
et
de la Côte d'Azur.
Ça fait trois pour les Toulousains, avec ce but de King sur un coup franc joué rapidement, beaucoup trop rapidement par les Montpelliérains. Falaï Sacho,
Boga qui se présente, et Majeki qui remporte son duel, toujours 0-0.
Ouais, Falaï Sacho qui rate sa passe complètement récupérée par Abouklal qui élimine son défenseur. Il décale sur le côté gauche King. Et voilà, 3-0 pour les Toulousains. Mais là, la passe, elle est catastrophique. C'était juste Savagnier. La passe de Savagnier qui cherchait Sagnan, elle est catastrophique. Plein axe. Les Montpellierains n'étaient pas du tout concernés. Ça fait 3-0 pour les Toulousains. C'est un calvaire pour les Montpelliérains, humiliés par les Toulousains. 3-0 après à peine 27 minutes de jeu.
Julien, on analyse ça dans un instant parce qu'info importante à Nice, le but a été refusé de Brel Embolo.
En effet, but refusé pour un hors-jeu d'une pointure de Takumi Minamino au départ de l'action, mais il était bien hors-jeu. Les Monégasques qui auront donc vu un but refusé et un pénalty non sifflé, et donc ils ne sont pas récompensés de leurs efforts, et en plus les Niçois se montrent dangereux à l'image de cette situation avec Jérémy Boga qui a perdu son duel, son face-à-face avec le gardien Monégasque, et donc la 28e, 0-0 entre Nice et Monaco. On promet un match compliqué pour les Niçois, c'est le cas, qui sont dominés mais qui sont capables aussi de créer du danger en contre-attaque. 0-0.
Et Julien Landry, on va revenir vers toi peut-être avec Seb pour revenir sur ce troisième but toulousain.
Ouais, bah alors, là, déjà il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a aucun doute. Non, et puis même si Tevis Savanier commence à nous louper des passes latérales comme ça, après mine de rien ça reste un 2 contre 2 quand même mal négocié, c'est pas un 2 contre 1. Et puis voilà, derrière il y a une équipe toulousaine en confiance, et les Montpelliérains ils sont vraiment au fond du trou, je vois pas comment ils peuvent réagir.
Ils défendent pas.
Et puis ils attaquent pas non plus parce qu'ils n'ont pas beaucoup le ballon,
il n'y a
pas beaucoup d'appels dans la profondeur. Voilà, les Toulousains ils sont vraiment tranquilles, et puis j'ai bien peur pour les Montpelliérains que la note soit un peu plus salée.
Ouais, si, en tout cas, il se réveille pas. Mais là, pour la première de Jean-Louis Gasset, qui avait dit j'attends des attitudes irréprochables. J'en ai marre que les gens arrivent à Montpellier, à La Mosson, c'était un terrain miné. Ils viennent facilement. Mais là, ils en ont déjà pris trois en une demi-heure de jeu. C'est un début catastrophique pour Jean-Louis Gasset. Le pire des choses qu'il pouvait imaginer. 29 minutes, 3-0 pour le TFC.
Et le pire des débuts pour son retour. Strasbourg-Nantes, on y vient dans un instant. Mais avant cela, Léna Marjac pour Félix Lebrun, pardon, au final à Montpellier.
Premier set en poche pour Félix Lebrun, 11 points à 7, un très gros premier set de la part du Français. Il sert très très bien, et son adversaire, le Japonais Tomokazu Harimoto, a vraiment du mal à retourner, et donc pour l'instant tout va bien pour Félix Lebrun. Pourvu que ça dure, on est en format de 4 sets gagnants. Le chemin est encore long, mais la première manche est dans la poche de Félix Lebrun, 11-7.
Allez, c'est bien parti. Strasbourg-Nantes, pour revenir à la Ligue 1 avec toi Sébastien Ruffet, on a vu une barre strasbourgeoise il y a quelques minutes, là c'est quoi la tendance là?
La tendance c'est que les Nantais ont beaucoup de mal à s'approcher du but strasbourgeois, et cet impact au milieu des Strasbourgeois est en train de pencher en leur faveur. Clairement, il y a un gros duel depuis le début de cette partie dans cette zone de jeu, et c'est vrai que cette jeunesse strasbourgeoise elle sait y faire sur l'impact au niveau du milieu de terrain. Et j'ai envie de poser une question à Seb aussi, parce qu'on l'a dit en début de match, alors il y a l'absence de Moses Simon qui pèse évidemment très très lourd, c'est le meilleur dribbleur de ce championnat, absent en dernier moment parce que Antoine Comboiré préfère le préserver, mais surtout de laisser Chirivella et Le Penant sur le banc. Est-ce que Nantes perd pas justement un petit peu cette dose de créativité? Est-ce que ce sont des joueurs qui, sincèrement, est-ce qu'ils auraient été battus dans l'impact plus que ne le sont pour l'instant les Nantais? C'est une vraie question.
Non, mais je me demande surtout pourquoi ils n'ont pas été alignés. Alors il faudra demander à Antoine Comboiré. Peut-être que c'est une sanction, peut-être qu'on ne sait pas, parce que franchement, se priver de Chirivella, donc le capitaine,
le capitaine
quand même, qui est pas dans la forme de sa vie, mais quand même cohérent dans ce qu'il fait. Et puis Le Penant, qui est plutôt l'une des révélations nantaises depuis le début de cette saison, qui fait le job, qui a été décisif. C'est vrai que
attention, parce qu'il y a Kadewere là qui va se tromper. Il a voulu mettre au deuxième poteau alors qu'il aurait peut-être pu partir seul au but. Ouais, vas-y,
je disais ça en rigolant tout à l'heure, mais il n'y a pas de Coupe d'Europe pour les Nantais, enfin, il n'y a pas de calendrier surchargé. Et puis bon, il restait sur un nul face à Nice, donc pas une grosse contre-performance. Donc c'est étrange.
C'est vrai qu'on voit des Nantais qui ont quand même du mal à sortir les ballons. Ça manque un petit peu de justesse technique avec des Strasbourgeois qui, comme d'habitude, pressent assez haut, encore plus quand ils sont à la méno. Et c'est vrai qu'on a un gros duel, mais ce sont quand même plutôt les Nantais qui sont en train de fléchir dans cette mi-temps après la première demi-heure. Voilà, 31 minutes ici, donc c'est Strasbourg qui mène assez logiquement, on peut le dire, 1-0 face aux Nantais grâce à André Santos, c'est la 17e.
Et puis dernier match que l'on suit dans l'intégral foot, ça se passe en Angleterre. C'est la première ligue. Arnaud Valadon, salut, c'est Arsenal-Liverpool, ça y est, ça a commencé.
Salut Marina, salut Seb, salut à tous, c'est parti depuis une minute dans ce choc, le deuxième contre l'équipe qui est quatrième Arsenal, Liverpool qui peut reprendre les commandes de la Première Ligue. Déjà un bon coup franc à suivre près de la surface de réparation pour les Reds avec Alexander-Arnold qui va le frapper dans un instant. Bukayo Saka est de retour pour Arsenal, c'est la bonne nouvelle, attention ce coup franc et la tête de Van Dijk qui finalement ne va pas trouver preneur derrière l'Emirates. 0-0 après une minute 30 de jouer entre Arsenal et Liverpool.
Allez, Nice-Monaco, c'est le gros match de cet après-midi. On en attend pas mal, Maxime Tilliette. C'est animé, c'est intense, mais oui, pour l'instant, pas de but.
En effet, personne n'a pris les devants au tableau d'affichage. 0-0, encore 13 minutes à jouer dans cette première période. Brahim Mbolo qui pensait avoir ouvert le score, mais le but a été fort logiquement refusé pour un hors-jeu, certes infime, mais hors-jeu tout de même. Et ce sont les Monégasques qui continuent à faire circuler le ballon, mais qui ont du mal à trouver la faille hein, face au bloc niçois qui coulisse plutôt bien.
Ouais, qui est assez bas en plus. Bon, je pense que c'est l'objectif hein, de l'équipe de Franck Hez, hein, c'est de pouvoir aller vite vers l'avant, notamment avec Guessant. Mais c'est vrai que bon, les Monégasques, ils ont quand même une sacrée maîtrise. Hein, pour l'instant, ça se ressent pas trop, mais l'absence quand même de Zakaria, qui est lui aussi un des hommes clés. À 18h, il est voilà, c'est
pas dommage trop, pour eux, c'est le capitaine.
Ouais, et puis c'est pas que un milieu défensif. Hein, il sait tout faire, il gagne des mètres. Il est très très intéressant balle au pied aussi pour percuter dans ses choix. Donc on ne sait toujours pas ce qu'il a.
Non, il y a pas une gêne musculaire. Une petite gêne musculaire.
Et nouvelle l'occasion pour le Racing Club de Strasbourg avec Diane Bakwa, très bien servi là sur le côté. On pensait qu'il allait remettre sa patte gauche. Finalement, il fait un petit contrôle de plus et il tire du droit et s'est repoussé en corner par Alban Lafont. 1-0 toujours pour Strasbourg face à Nantes.
Le coup franc à Montpellier avec toi, Julien Landry, Montpellier-Toulouse.
Wahbi Khazri dans les gants de Guillaume Rest. Le premier était frappé par TJ Savagnier. Cette fois-ci, il a laissé à Wahbi Khazri. C'est la première frappe cadrée des Montpellierens, menés 3-0. Et après 33 minutes de jeu, alors évidemment avec les conditions météo, Guillaume Rest ne s'est pas encombré. Il a préféré boxer ce ballon qui était évidemment dangereux avec peut-être juste un petit rebond devant lui. Et attention aux Toulousains qui repartent en contre-attaque. Trois Montpellierens éliminés sur une seule passe. Le ballon pour King avec Abouklal et le ballon qui sera récupéré par les Montpellierens qui vont essayer de partir en contre avec Savagnier. Savagnier à l'extérieur du pied droit. Oulala, TJ Savagnier, il n'est pas du tout dans son match ce soir avec cette passe ratée, ce nouveau positionnement devant la défense. On a l'impression qu'il est perdu un petit peu, TJ Savagnier, pour le moment sur la pelouse. 34 minutes de jeu, 3-0 pour le TFC.
Nice-Monaco, rappelle-nous le temps, le score, Maxime Tilliette, s'il te plaît.
35e, 0-0. Le corner là est trop facilement dégagé. C'est Caio Henrique qui l'a frappé, mais plutôt mal. Et c'est assez rare pour le signaler, dégagé très facilement par la défense niçoise au premier poteau. À 10 minutes de la mi-temps, donc 0-0 dans ce derby de la Côte d'Azur.
Et Strasbourg-Nantes, Sébastien Ruffet.
Et attention, le corner, parce qu'il y a peut-être une deuxième chance, peut-être là pour Bakwa. Non, finalement, il y aura une faute qui aura été sifflée au préalable. On est donc à la 34 minutes de jeu ici à la Méno et 1-0 pour Strasbourg face à Nantes. Le but d'André Santos.
Et il y a la première ligue aussi avec toi, Arnaud Valadon, Arsenal-Liverpool.
4 minutes 22 jouées, 0-0.
Et le ping avec toi, Léna Marjac, Félix Lebrun en finale.
1-7-0 pour Félix et 9-7 pour son adversaire, le japonais Arimoto, dans cette deuxième manche.
Allez, on continue de suivre tous ces événements. L'intégral foot revient sur RMC avec Seb Piocel. Une pause, à tout de suite.
RMC, intégral foot.
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel, 0-0 entre Nice et Monaco, 1-0 entre Strasbourg et Nantes et 3-0 pour Toulouse sur la pelouse de Montpellier. Mais Léna Marjac, Félix Lebrun continue d'avancer dans sa finale tennis de table.
11-9 dans la deuxième manche. Félix Lebrun mène maintenant 2-7-0 dans cette finale. La salle est pleine, 6000 personnes. Je peux vous dire que l'ambiance est dingue pour soutenir notre Français. C'est la première fois que l'on a un tricolore dans une finale d'un WTT Champions, l'équivalent d'un Masters 1000. Il peut marquer l'histoire aujourd'hui, Félix Lebrun, et pour l'instant il est bien parti. 2-0 donc pour Félix Lebrun face au japonais Tomokazu Arimoto, 8e mondial.
C'est beau, bravo Félix Lebrun. Pour l'instant, Léna, tu restes avec nous, bien sûr. La Ligue 1 avec Nice-Monaco. Ce derby, c'est avec toi, Maxime Tilliette.
Oui, et le jeu va être arrêté pour que l'épaule, ou du moins Pablo Rosario, reprenne ses esprits après ce duel avec Wilfried Tsingo. 0-0, les Monégasques qui dominent. Mais au final, je regarde les statistiques, ce sont les Niçois hein, qui ont tiré le plus au but sur cette rencontre. Bon, trois fois, c'est pas énorme non plus. Mais ce sont eux qui se sont montrés les plus dangereux, finalement, sur... la cage gardée par Majewski côté Monégasque, et la SN de l'autre côté a cru ouvrir le score par Mbolo, but refusé logiquement pour un hors-jeu, et donc ce qui nous fait qu'on en reste à 0-0. Les Niçois tiennent bon pour le moment, on leur promettait des misères cet après-midi et pour le moment ça tient, même si c'est pas toujours évident. Là peut-être avec le ballon en profondeur dans le dos, c'est bien fait d'Akliouche pour Mbolo qui rentre dans la surface, la frappe, et cette fois-ci sans aucune contestation il n'y aura pas hors-jeu puisque Mbolo est parti dans le bon tempo dans le dos de Melvin Barre pour ouvrir le score. Il pensait l'avoir fait une première fois il y a quelques minutes. Ça a été refusé pour hors-jeu et cette fois-ci, ça devrait être bien validé par monsieur Pignat. Est-ce que vous avez vu les images, Seb?
Ouais, je pense pas qu'il y ait hors-jeu. En tout cas, la course, elle est parfaite parce que on voit qu'il attend un petit peu justement avant de se projeter. Et puis la passe est magnifique, hein, dans le bon espace et dans le bon timing.
Ouais, Marley Sakliouche dont on parle
en équipe de France,
ouais,
je pense
potentiellement
ça, va pas tarder,
ouais. Ça devrait plus trop tarder. Après on dit ça aussi de monsieur Chevalier depuis de nombreux mois,
ouais,
et ça tarde un petit peu,
mais là, on revoit
et ça fait un pour Arsenal. L'ouverture du score des Gunners sur la première réelle incursion. Quel long ballon de Ben White pour lancer Bukayo Saka sur le côté droit, le crochet magnifique pour éliminer Andy Robertson dans la surface de réparation et ensuite fort au premier poteau pour Matt Keller, le gardien des Reds. Et donc un but à 0 pour Arsenal sur sa pelouse après 10 minutes de jouer à l'Emirates.
Et ça y est, il y a des buts sur toutes les pelouses, tous les matchs de foot cet après-midi, les trois matchs de Ligue 1 et donc ce but d'Arsenal à l'instant en Première Ligue. Montpellier-Toulouse, Julien Landry, ça continue d'être le cauchemar pour les Montpelliérains.
Ouais, 5 minutes encore à jouer dans cette première période. 3-0 pour les Toulousains. Et le plus inquiétant, probablement, Seb, c'est que les Montpellierens ne réagissent même pas. Il n'y a pas une seule occasion.
Les Toulousains, ils sont bien en place. Ils laissent très peu de possibilités. Et puis voilà, on voit une équipe qui est en grande manque de confiance. Donc
autant contre Marseille la semaine dernière, ils avaient eu des situations. On se rappelle notamment cette occasion d'accord Adams. Là, ce soir, il n'y a rien eu pour le moment, pas l'ombre d'une situation, excepté la frappe de Wahbi Khazri sur le coup franc. Même si l'accord Adams va frapper de loin, et voilà, ça sert à rien. Et en plus, chacun y va de son petit exploit personnel ou de sa tentative. La frappe très lointaine d'accord Adams qui ne mènera à rien. 3-0 à la mi-temps et on voit pas sur quel levier Jean-Louis Gasset va pouvoir appuyer à la mi-temps pour remettre son équipe à l'endroit, parce que cette première mi-temps elle est complètement ratée, même si Moussa Altamari s'entraîne sur le côté. Mais c'est un calvaire pour les Montpelliérains, plus d'énergie, et en plus les 500 supporters toulousains qui ont fait le déplacement font le plus de bruit dans le stade, parce que l'habit de paillade c'est tout simplement arrêter de chanter devant le naufrage de son équipe. 3-0 pour le TFC, encore 3 minutes à jouer dans cette première période.
Et Strasbourg-Nantes, c'est avec toi Sébastien Ruffet.
41e minute ici, 1-0 pour Strasbourg. Des Nantais qui dans cette fin de mi-temps essayent, mais c'est maladroit. Il y avait une belle sortie de balle là-bas côté droit, et puis finalement on tente une transversale qui n'arrive à personne, si ce n'est dans la course du défenseur strasbourgeois Guéladoué qui est derrière tranquille. C'est trop peu de côté Nantais pour l'instant dans la construction. Il y a de l'impact, on essaie de résister au duel imposé, des duels physiques imposés par les Strasbourgeois ce soir, mais dans la construction c'est trop brouillon.
Ils ont du mal à mettre de la vitesse, alors forcément il manque Simon, donc c'est quand même l'accélérateur hein, du jeu nantais. Et là aussi Strasbourg, c'est mine de rien c'est jeune, mais c'est quand même rafraîchissant hein, ce qu'ils proposent à chaque fois. Et dans le jeu ils restent vraiment sur les principes de Rossignol, peu importe l'adversaire. Et là face à Nantes, on voit qu'ils jouent un petit peu dans la même cour. Alors on voit quand même que c'est un cran au-dessus.
Tu vois, ce qui est intéressant entre les deux équipes, c'est comment les Strasbourgeois sont plus capables de lâcher le ballon un peu plus vite. Même dans des zones un peu neutres, ça circule un peu plus vite et ça ouvre vite des espaces pour les coéquipiers. Et c'est plutôt intéressant, comme avec Nanas, il en est à 30 mètres du but nantais. Est-ce qu'il va fixer? Non, il a préféré tenter une passe vers Diarra, il aurait peut-être pu y aller parce qu'il y avait un petit peu d'espace. Et le bon tacle d'Ismaël Doucouré qui fait son retour. Également, on n'a pas parlé de l'absence d'Emmanuel Emega, l'attaquant strasbourgeois qui s'est fait une entorse au genou la semaine dernière à Paris. Et qui manque un petit peu, même si c'est Koumara fait le boulot pour l'instant pour sa première titularisation ce soir à la Méno. Il le remplace plutôt avantageusement. En tout cas pour l'instant les Strasbourgeois sont à leur main, assez tranquilles face à des Nantais assez inoffensifs pour l'instant. 43e minute, 1-0 pour Strasbourg.
Un mot de ping parce que c'est une balle de 7 pour Félix Lebrun, Léna Marjac.
Oui, l'échange est en cours et ça y est, c'est fait, c'est transformé. Félix Lebrun mène maintenant 3-0 dans cette finale du WTT Champions de Montpellier. Il est à 1-7 de s'offrir le plus beau titre de sa jeune carrière, le troisième titre aussi de sa carrière. Et Félix Lebrun qui pour l'instant domine dans tous les sens du terme. Son adversaire, le japonais, a énormément de mal de remettre ses coups droits, ses revers ou même ses services. Pour l'instant, Félix est injouable et c'est le cas depuis le début de la journée. Félix Lebrun est donc à 1-7 du titre ici à Montpellier chez lui.
intouchable, Félix Lebrun, aujourd'hui dans cette finale. Merci Léna, Nice, Monaco, Maxime Tillette. On voit les monégasques qui continuent de combiner tranquillement ou pas?
Oui, bon, ils se font bouger, hein. C'est un derby, les duels sont engagés et la réaction niçoise passe aussi par là, un petit peu plus d'engagement, c'est ce que demandait Francaise après le match de Ferencváros perdu jeudi soir à Budapest en Hongrie. Et en effet, là dans l'engagement, ils en ont mis un petit peu plus depuis l'ouverture du score des monégasques signé Brel Embolo. L'autre enseignement, eh bien, c'est que l'AS Monaco prend seul provisoirement la tête du championnat avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, cela juste avant le classique de ce soir au Vélodrome qui va promettre une affiche très intéressante en plus avec cet enjeu de la tête du championnat. Les Niçois qui essayent de ressortir, mais il y a toujours deux monégasques pour empêcher Jérémy Boga de se retourner. On entre dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période et 1-0 pour Monaco.
Seb, cette équipe niçoise t'en dis quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce carton à Saint-Etienne qui a un peu caché, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que derrière ça gagne plus, hein.
Ouais, ils ont bon, après il y a un nouvel entraîneur qui doit aussi mettre sa patte. Il y a un effectif quand même qui est intéressant. Il faut avaler aussi un petit peu les principes de Franck Hez, mais c'est vrai qu'elle est pas très dominante cette formation là, donc on la voit jouer en compte. Il y a des joueurs de talent à l'image de Boga ou de Guessant devant, mais voilà, par contre c'est assez friable derrière. Et puis là c'est Monaco en face avec une équipe qui fait mal à tout le monde, hein, depuis le début de la saison, donc c'est même pas une surprise finalement.
Non. Il va y avoir un très bon coup franc là, 3 minutes de temps additionnel et un très bon coup franc à venir pour les Niçois, obtenu par Mohamed Ali Chaud. Wilfried Tsingo a pris un carton jaune, c'est le troisième déjà dans les rangs monégasques après Vanderson et Magassa. On parlait de ce début de saison niçois, seulement 2 victoires sur les 11 premières journées. Francaise qui a qualifié cette semaine la victoire face à Saint-Etienne de trompe-l'œil. Et il y a aussi les absences, Dante, Ndaichimi, Ndombele, Sanson et Mofi sont absents ce soir, plus Jonathan Klaus qui a senti une gêne musculaire ce matin lors de la préparation de ce match. Le coup franc bien frappé et à l'égalisation d'Evan Guessant. C'est lui la principale arme offensive de l'OGC Nice et c'est lui qui permet aux Siens, les Niçois, de revenir un partout juste avant la mi-temps. Une tête parfaite, Nice 1, Monaco 1, l'égalisation signée Evan Guessant.
Ça y est, elle est arrivée, cette égalisation de Niçois, ce talent dont tu parlais qui est là.
Ouais, oui, après je parlais plus d'autres qualités de Guessant que son jeu de tête. mais c'est vrai que ça va récompenser tout le travail qu'il fait, hein, énorme, que ce soit avec ou sans ballon. Très très bien tiré, il monte plus haut que les Monégas. C'est imparable, hein, quasiment pour Majeki, parce qu'il y a le rebond en fait qui est trompeur. Hein. Et Maxime disait qu'en termes de tir, ils étaient au-dessus des Monégas. Bon, là ils sont hyper réalistes.
Ouais, au meilleur des moments, hein, dans le temps additionnel de la première période, Evan Guessant qui remet les compteurs à zéro, ou plutôt à un partout. Alors on va attendre que le coup d'envoi soit donné, parce qu'on a déjà eu une fausse alerte en début de rencontre avec le premier but d'Embolo qui a été finalement refusé pour un hors-jeu. Le deuxième d'Embolo a bien été validé et a permis donc à Monaco d'ouvrir le score. Là l'égalisation niçoise n'a pas encore été validée, hein, par Monsieur Pignard qui est en communication. Est-ce qu'il n'y a pas une petite faute éventuellement sur le duel avec Lamine Camara dans la surface? Peut-être pas, un ascenseur. Non, le but est bien validé. Ah. Et donc ça fait bien un partout. Et deuxième salve de joie pour les Niçois qui recollent un partout dans ce derby.
Un but partout donc entre Nice et Monaco. Et Strasbourg qui mène face à Nantes, Sébastien Ruffet.
Ouais, on est dans le temps additionnel, il reste 15 secondes à jouer, hein. Il y a eu une dernière situation très chaude là pour les Strasbourgeois avec Dylan Bakwa qui est rentré dans la surface de réparation. Il a avancé, il a voulu revenir évidemment sur son pied gauche pour frapper, mais la défense nantaise a réussi à venir fermer et contrer cette frappe. Et c'est la mi-temps à l'instant, Strasbourg qui mène assez logiquement face à des Nantais un peu timorés, 1-0. Le quatrième but déjà cette saison pour André Santos à la 17e.
Ouais, ça part en général là, Nice, hein. Très clairement, c'est parti d'une petite poussette de Vanderson sur Mohamed Ali.
Égalisation de Liverpool dans le gros match anglais signé Virgil van Dijk. Déjà tout à l'heure, Mohamed Salah avait frappé suite à une erreur de Merino. Et cette fois-ci, c'est la puissance du colosse néerlandais qui est venu sur ce corner placer cette tête. Et donc égalisé après 18 minutes de jeu entre Arsenal et Liverpool, un partout.
Merci Arnaud Valadon sur la Première Ligue. Merci Sébastien Ruffet. Strasbourg, Nantes, c'est donc la mi-temps 1-0. On est dans les arrêts de jeu entre Nice et Monaco. Dans les arrêts de jeu également entre Montpellier et Toulouse. Julien Landry.
Ouais, encore 2 minutes à jouer, il y avait 5 minutes de temps additionnel, toujours 3-0 pour les Toulousains. Garmi en danger par les Montpellierains, il gère tranquillement cet avantage de 3-0. Il ne s'est passé plus rien depuis la 27e et ce but de King, les Toulousains gèrent, les Montpellierains ont la tête sous l'eau et on verra comment Jean-Louis Gasset va essayer de les remobiliser à la mi-temps. Mais 3-0 et encore 2 minutes 30 à jouer dans l'additionnel.
Carton rouge pour Vanderson, je le disais, ça partait en général et Vanderson était au départ dans l'altercation avec Mohamed Ali Chou, la poussette, le Brésilien, il est tombé dans le piège là parce qu'il va prendre un deuxième carton jaune et les Monégasques vont finir la rencontre à 10.
Eh ouais, c'est pas la même sanction du coup, c'est un deuxième jaune donc ouais. Il fallait aussi qu'ils réfléchissent hein, sur le coup.
Et ouais, on réfléchit après dans ces cas-là.
Ouais,
hein, c'est ça.
Malheureusement pour les Monégasques, ouais, c'est dur hein, entre l'égalisation juste avant la pause plus ce carton rouge pour Vanderson. Pas de mi-temps compliqué hein, pour
Monaco. Très compliqué, eux qui ont dominé hein, globalement cette première période et il a suffi d'un coup de pied arrêté sur lequel les Niçois ont égalisé et quelques secondes plus tard Vanderson il fait pas un geste de fou non plus hein, et il se repousse un petit peu avec Mohamed Ali Chou, sauf que les deux prennent carton jaune de la part de Monsieur Pignard et Vanderson le Brésilien en avait déjà écopé d'un dans cette première période.
Ce qui est fou Maxime, c'est que sur ce genre d'action hors terrain on va dire, hors football, c'est que t'as l'impression que tout le monde vient pour calmer et du coup ça rameute tout le monde et t'as l'impression que, alors c'est vrai qu'à la base il n'y avait pas grand chose, c'était une petite poussette et
tout le monde est venu courir, ça a fait un gros attroupement juste devant le banc de touche des Monégasques. 18h qui était déjà frustré hein, par l'arbitrage de Monsieur Pignard qui estimait qu'il aurait dû avoir pénalty, que Pablo Rosario aurait pu prendre un carton sur un tacle très engagé et attention parce qu'on n'est peut-être pas au bout de nos surprises en cette fin de première période. L'accélération, Mohamed Ali Chou de nouveau à l'attaque, c'est lui qui avait obtenu le coup franc qui a permis l'égalisation des Niçois, le centre de Louchet au second poteau dégagé par Wilfried Tsingo qui a décalé couloir droit suite à l'expulsion de Vanderson. Le centre de Boga désormais est dégagé de la tête. Il y aura un coup de sifflet. C'était dégagé par Kerrer et Monsieur Pignard a vu une faute justement sur le défenseur allemand. Un partout entre Nice et Monaco. Les Monégasques réduits à 10 depuis l'expulsion de Vanderson. On a passé 5 minutes déjà dans le temps additionnel alors qu'il n'y en avait que 3 d'annoncés.
Ça se poursuit, c'est sur le point de se terminer également Montpellier-Toulouse pour cette première période de Julien Landry.
Mi-temps en Nice.
Ouais, 20 secondes exactement à jouer à Montpellier où il va y avoir une énorme bronca. Hein, monsieur l'arbitre qui va mettre le sifflet à la bouche, la dernière situation avec ce tir très lointain, Benjamin Lecomte qui avait quitté sa cage. Et voilà la mi-temps qui est sifflée à l'instant sur ce score de 3-0 en faveur des Toulousains à boucler les Kings. Et voilà l'énorme bronca qui raccompagne les Montpellierens en vestiaire. Première mi-temps cauchemardesque pour la Payal.
Ah, on l'entend bien la bronca là. Hein. Pas besoin d'y être pour sentir l'énervement.
C'est un petit peu logique. Hein. Ils sont derniers. Puis ça surtout ce qu'ils montrent sur le terrain ou ce qu'ils montrent pas plutôt.
C'est terrible. Nice Monaco. Ça y est, c'est la pause également. Maxime Tillette.
En effet, un partout. Brel Mbolo avait ouvert le score à la 22e. But finalement refusé pour hors jeu. En revanche, à la 39e, le but est bien validé pour Mbolo qui permet à Monaco de mener 1-0. L'égalisation juste avant la mi-temps. 45+1. Signé Evan Guessant sur coup franc de la tête et derrière Vanderson qui prend un deuxième jaune juste avant la mi-temps à la 50e minute de cette première période. Un partout donc et les Monégasques qui vont évoluer à 10 contre 11 en seconde période.
Un partout entre Nice et Monaco, 1-0 entre Strasbourg et Nantes et Montpellier-Toulouse, donc 3-0 pour les Montpelliérains pour l'instant. C'est la pause et nous allons parier sur la deuxième période.
Winamax, le plus important c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et on parie avec toi, Christophe Lénès. Ça va, Christophe ?
Très bien, bonjour Marina, bonjour à tous. Alors, l'exclusion, le deuxième jaune de Vanderson change singulièrement la donne puisque ce sont désormais les Niçois qui sont les favoris des bookmakers. 2,15 la victoire niçoise, 2,30 le match nul, 3,65 la victoire de l'AS Monaco. Je vois une seconde période assez ouverte. Je vais vous proposer le 2 buts partout coté à 5,70. Le doublé pour Brel Mbolo est coté à 5,30. Le doublé pour Guessant est à 6. On peut se couvrir avec Monaco qui ne perd pas le N2, il est coté à 1,60. 5, c'est pas mal, je sais pas ce que t'en penses Seb.
Moi je vais sur Monaco en fait voilà, même si parce que du coup la cote a augmenté, mais ils ont quand même des joueurs capables de faire la différence. Les Niçois ils vont se découvrir un peu plus je pense, qu'ils sont en supériorité numérique. Je les vois bien aller gagner à Nice.
Un petit 2-1 c'est coté à 5, parfait.
C'est vendu ?
C'est bon.
Allez, super. Merci beaucoup Christophe.
Winamax, le plus important c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et l'actu sport, c'est aussi cette finale pour Félix Lebrun, le tennis de table et Namar Jack. On en est où ?
Félix Lebrun mène 3-7-1. Le japonais Tomokazu Harimoto a remporté la quatrième manche 11-8. Et pour l'instant, Félix, dans la cinquième, mène 4 points à 2. Et à l'instant, 5 points à 2 pour Félix, qui est donc à 6 petits points d'un titre ici à Montpellier, à la maison, dans ce WTT Champions.
A tout à l'heure, Léna pour, on l'espère, le titre pour Félix Lebrun du côté de Montpellier. La première ligue aussi, ça joue toujours. Ce n'est pas encore la pause. Le coup d'envoi a été donné à 17h30 entre Arsenal et Liverpool. Arnaud Valadon.
Et on joue la 24e, un but partout. Et vraiment des équipes très efficaces. Saka marqué sur la première occasion pour Arsenal. Et Van Dijk a égalisé de la tête sur la deuxième situation. Il a peut-être manqué un certain William Saliba, suspendu pour être au marquage du Néerlandais dans un match évidemment avec beaucoup d'intensité entre Arsenal et Liverpool. Un partout, la 24e.
Merci Arnaud Valadon. 17h54 sur RMC. Dans un instant, on parle du classique ce soir au MPG avec un invité, un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui nous attend. Une petite pause et on se retrouve dans l'Intégral Foot.
RMC Intégral Foot,
Marina Lorenzo.
Le Multi-Ligue 1, bienvenue si vous nous rejoignez avec Seb Piocel toujours et avec Félix Lebrun, Léna Marjac. Ça y est, il est entre ses mains, le titre, ces images sont magnifiques.
Et oui, 4-7-1 pour Félix Lebrun, il est monté sur la table pour célébrer sa victoire. C'est le plus grand titre de sa carrière, un WTT Champions à Montpellier, chez lui. En plus, il est le roi de ce tournoi et il peut savourer avec le public. La salle est pleine, 6000 personnes, c'est monstrueux ce qu'il a réalisé. Il a sorti son frère hier en quart de finale pour la première fois de sa carrière. Il a sorti le numéro 2 mondial en demi-finale, un joueur chinois. Et là, il s'impose 4-7-1 face au numéro 8 mondial. Il était tout simplement intouchable. Félix, aujourd'hui, à 18 ans, il remporte le plus beau titre de sa carrière et en plus à la maison.
C'est beau avec la Marseillaise, bien sûr, pour accompagner tout cela. Merci beaucoup, Léna Marjac. Bravo au Félix Lebrun pour ce titre décroché avec Panache à Montpellier. La Ligue 1, on y revient. C'est toujours la pause sur les trois matchs de 17h avec Seb Piocel. On va faire un petit point quand même sur ces premières périodes parce que Nice-Monaco, on est un but partout. Nice, pour l'instant, s'en sort bien. Hein.
Ouais, alors on l'a vu en termes de stats, c'était eux qui avaient tiré le plus au but, mais c'est quand même les Monégasques qui avaient la maîtrise, qui se rapprochaient le plus à chaque fois du but niçois. Et c'est vrai que ça a tourné en très peu de temps, puisqu'ils se sont fait égaliser dans les derniers instants de la première période, plus ce carton rouge pour Anderson face au deuxième jaune, synonyme de carton rouge. Finalement, ils se mettent un petit peu en difficulté, mais je les sens capables quand même. Ils ont tellement une maîtrise et puis surtout énormément de talent pour malgré tout ça, reprendre les devants en deuxième mi-temps. Mais ça va donner peut-être des idées aussi aux Aiglons qui ont bien terminé la première période.
Ouais, évidemment, et avec cette supériorité numérique, on va voir ce que cela change, s'il y a un réajustement également de la part d'Adi Hütter avec ce joueur de champ en moins, un but partout donc entre Nice et Monaco pour le moment. Montpellier-Toulouse, alors là c'est la douche froide parce qu'évidemment on se dit première de Jean-Louis Gasset, on va voir du changement, et il y en a eu sur le terrain en tout cas au niveau des joueurs, mais dans le fond c'est très dur.
Bah, on s'attend à tout sauf à ça quand il y a un changement d'entraîneur, qui plus est. Voilà, on sait comment manage un petit peu Jean-Louis Gasset. C'est un retour aussi à Montpellier. Il a remis les bannis, notamment Jordan Ferry ou Kazri, qui au-delà d'être bannis sont quand même des anciens avec de l'expérience. Oui. Et puis c'est vrai que le début de match, il est catastrophique avec ses deux buts très rapidement encaissés, un troisième finalement qui a été au départ refusé pour hors-jeu, et puis derrière ils en reprennent un troisième. Et c'est surtout on disait le manque de réaction des Montpellierains, ils sont complètement à plat, et puis derrière les supporters ne suivent pas, donc ça va être très très compliqué. Je ne sais pas comment il va remobiliser ses troupes, quel levier il va pouvoir tirer là sur la mi-temps.
On va voir ça évidemment, et puis sachez que Strasbourg mène 1-0 face à Nantes à la mi-temps. Il est 18h et comme promis, nous accueillons notre invité exceptionnel. Aujourd'hui on va parler du classique, écoutez ça et on l'accueille.
Erding sur son pied droit, pied gauche maintenant, Erding.
C'est le PSG, les couleurs, le parc, tu peux pas enlever ça à quelqu'un.
On va passer par Makonda et la tête. Et c'est au fond. La tête de Mevlut Erding.
Ok, Paris, c'était pas la meilleure période, mais je choisis Paris par amour que j'ai pour le club.
Avec Nelly, ouais, qui va pouvoir frapper. Et Mandanda qui s'est saisi.
qui perdit ce ballon dans cette surface piégeuse et le réveil de Mevlut Erding. 1-0 contre Paris Saint-Germain.
Le numéro 11,
l'amour du maillot, l'amour du Parc des Princes qui lui a bien rendu Mevlut Erding. Salut, merci beaucoup d'être avec nous sur RMC.
Bonsoir tout le monde, vous me faites rêver là. Ah,
c'est vrai. Ça fait toujours la même chose. Ah, on t'entend pas très 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 bien. J'espère que la liaison va être rétablie, Mevlut, pour qu'on t'entende correctement. On t'es en Turquie là en ce moment. On t'entend, Mevlut?
Oui.
Ouais, est-ce que tu nous entends bien? Super. Non, je disais, ça évoque encore beaucoup de choses, tout ce qu'on t'a mis dans les oreilles, là.
Ah oui, je me rappelle, trop de souvenirs. Hein. En plus, le soir du Classico, là, ça va être quelque chose. Hein.
Alors, ce Classico, justement, comment, toi, tu l'envisages? Parce qu'évidemment, toi, c'était une période où il y avait une forme d'équilibre, quand même, entre les deux équipes. Les choses ont un peu changé, évidemment, depuis. Mais là, on se dit, ça peut être un peu risqué pour Paris, ce soir, ou pas?
Alors... assez équilibré. C'est la première fois que l'OM.
Ouais, mais Mevlut, on t'entend pas très bien. Hein. J'espère que ça va être rétabli. Seb, tu. C'est bien de l'avoir, Mevlut.
J'essaie de comprendre.
Mais ouais, je crois que ça va être compliqué, Mevlut, malheureusement. Hein. On a bien hâte de discuter avec toi. On refait un petit test pour voir. Ah oui. C'est compliqué. Ah zut, mais but. Bon, écoute, on va retenter. Hein. On ne sait jamais. Peut-être le temps.
Ça sent pas bon pour le PSG, ça. Hein.
Non, mais peut-être avoir ton avis, Seb, avant de récupérer mes buts, si on y arrive, ça serait chouette sur cet équilibre finalement qui semble être un peu revenu en tout cas cette saison.
Ouais, c'est ce que je disais hier. Le PSG reste quand même favori face à l'OM, mais c'est vrai que de par les dynamiques différentes des deux équipes, le fait qu'ils soient aussi assez proche au classement, ça reste un match quand même de début de saison, fait que l'OM a toutes ses chances. Maintenant, on sait que ça fait 11 ou 12 ans, je crois, ou 13 ans, peut-être. 13
ouais,
ans,
voilà, en 2011.
Alors, je sais pas si le chiffre 13 va porter le bonheur aux Marseillais. Voilà, mais c'est vrai qu'ils avaient gagné ce match en Coupe de France il y a deux saisons, il me semble. Mais aujourd'hui, en termes de dynamique, en termes d'effectifs, notamment sur l'aspect offensif du côté olympien, et il y aura de quoi faire. Maintenant, j'espère surtout qu'on voit un bon match de football engagé et qu'on voit des buts. C'est surtout,
a priori, avec les deux coachs qu'on a et les deux meilleures attaques
en tout cas,
du championnat.
C'est des fleurs, hein, les deux. Donc, j'espère que sur le terrain, ça donnera quelque chose d'intéressant.
Mevlut, je crois que ça y est, on peut discuter. On s'entend correctement.
Vous m'entendez là?
Ouais, super, Mevlut, parfait. Ouais, tu disais toi aussi qu'il y avait une forme d'équilibre. Tu es un peu d'accord avec ce que tu viens de dire, Sébastien?
C'est bien ça. C'est bien ça. J'ai l'impression que l'OM a rééquilibré le niveau. C'est la première fois que je vois ça depuis l'ère Qatari, en fait.
Ouais. Mais c'est une bonne chose quand même, non? Du coup, que cette rivalité redevienne une rivalité sportive. Après, on va voir ce que ça donne sur le terrain ce soir. Mais sur le papier, c'est une bonne chose, même quand on est parisien, non?
Moi, j'aime bien. Pour le sport, c'est très bien. Mais en tout cas, supporter parisien, moi, je ne suis pas très content. Mais ça veut dire que Marseille a bien travaillé aussi. Hein.
Bah, c'est important pour continuer de progresser, non, Seb, aussi, d'avoir dans son championnat des équipes aussi qui peuvent les rivaliser sur des grosses rencontres comme ça, que ce soit pas seulement Ligue des Champions aussi.
Exactement. Ouais, on ne pourra pas dire que PSG sera champion d'office, je pense.
Ouais, mais j'avais une question justement par rapport à ce. C'est comme les journalistes qui ont des idées sur le football mais qui n'ont pas joué. Voilà, donc moi j'ai joué mais j'ai pas jamais fait de classique.
Ouais.
Comment on appréhende ce genre de match? Parce que c'est toujours à part, peu importe les époques. Voilà, si on dit même que ça a été monté un petit peu dans les années 90, mais qu'est-ce qu'il a d'à part ce match, même dans la préparation par rapport à un autre match, peu importe le classement finalement des deux équipes?
Il apporte une tranquillité, ce match. Cette victoire par exemple pour l'un ou pour l'autre apporte une tranquillité pour la saison. L'OM s'y gagne, ils vont être tranquilles pendant un bout de temps et ils pourront enchaîner les matchs tranquillement. En fait, c'est un match que tu prépares différemment parce que toute la semaine, les supporters viennent te voir, te disent ce week-end il y a le classique, ça va être, il faut le gagner. Donc en fait, déjà mentalement, on le prépare différemment les joueurs. Mmh. Donc c'est un match différent, c'est un match pas comme les autres. Moi, on m'avait toujours dit marqué dans un classico, c'est. C'est quelque chose, j'ai marqué, j'ai dit que c'est quelque chose d'autre, c'est à part en fait. C'est un truc qui reste à part.
Alors là, c'est au Vélodrome. Ça change quoi d'aller jouer là-bas, toi qui l'as connu,
Mevlut? Ça change beaucoup. Bah, à mon époque, nous, je vais dire honnêtement, on se faisait clignasser le bus. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a la sécurité, il y a tout ça. Il y avait une pression différente. Mais j'ai l'impression que ça s'est rééquilibré ce soir. Oh, ça va être assez équilibré, voilà. C'est ce que je ressens.
Ouais, mais ça c'est
difficile pour Paris de jouer à Marseille parce qu'il y a une sacrée ambiance.
Ouais.
Moi j'ai une question plutôt technico-tactique par rapport à ce fameux poste de numéro 9 au Paris Saint-Germain, toi qui était attaquant. Oui. Le fait que le PSG ne joue pas avec de vrais numéro 9, qu'est-ce que ça t'inspire? Le fait que Colomboigny ne joue quasiment jamais, qu'est-ce que ça t'inspire?
En fait, pour respecter le schéma tactique, enfin le. C'est le coach qui voit ça comme ça. Mais après, moi.
Sans langue de bois, hein, Melvin.
Sans langue de bois, sans langue de bois. Pour moi, il faut un vrai neuf.
Ouais.
Je pense que le PSG n'a pas acheté de neuf cette saison, mais il le savait. Bon, il y a Colomboigny, mais ils ne sont pas allés chercher un aussi même non plus. Donc ils voulaient jouer comme ça cette saison. Mais c'est là qu'on voit qu'il manque un numéro 9, hein, il manque un buteur.
Je te rejoins là-dessus.
Merci beaucoup, Melvin. Tu vas le regarder où, ce classique?
Je vais regarder chez ma mère à Lyon, tranquillement.
Tranquillement à Lyon, bah super, pas loin de Saint-Etienne, t'as toujours un œil quand même sur les Stéphanois, vite fait.
C'est ça.
Et bah profite, Mevlut, et merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de parler
merci
avec toi.
À vous,
merci.
Soirée,
hein. Salut, bon match, bon classique, Mevlut Erding en direct sur RMC avec les trois rencontres de 17h qui ont repris les deuxièmes périodes Nice-Monaco. Avec toi, Maxime Tilliette, c'est parti depuis quelques minutes.
Oui, depuis deux minutes exactement. Un changement côté Monégasque, l'entrée de Crépin Diatta à la place de Magassa. Diatta qui se positionne arrière droit puisque Vanderson a pris un carton rouge en toute fin de première période, et ce sont évidemment les Niçois qui désormais ont la possession. La physionomie de match a changé vu qu'ils évoluent en supériorité numérique. Un partout entre Nice et Monaco.
Un partout entre Nice et Monaco. Strasbourg Nantes, c'est reparti aussi, Sébastien Ruffet.
C'est reparti depuis 2 minutes 30. Strasbourg qui mène 1-0 face à Nantes. Mais bon début deuxième mi-temps des Nantais avec une première situation avec Sorba Thomas qui est parti sur le côté droit. Le centre fort devant le but pour chercher Mathis Ablin. Mais Georgi Petrovic, le gardien strasbourgeois qui a été très peu sollicité en première mi-temps. C'est bien étendu. Attention peut-être avec cette fois. Oh, l'arrêt encore une fois. Le face-à-face remporté par Georgi Petrovic face à l'attaquant Nantais. Ouh, alors là, c'était vraiment la balle d'égalisation. Elle était toute faite, on va dire ça entre guillemets, pour Douglas Augusto qui ouvre son pied gauche dans les 6 mètres. Il est dans les 6 mètres, légèrement côté droit. Et le duel remporté par Georgi Petrovic. Ce sera un corner à bien pour les Nantais. Attention, ça peut changer de physionomie dans cette deuxième mi-temps.
Ouais, ils sont de retour avec des bonnes intentions.
Déjà, ils sont plus hauts, hein, sur le terrain. On l'a vu là, puisqu'ils ont été pressés, ils ont récupéré le ballon. C'est dommage pour. Bon, Augusto en plus qui est sur son bon pied, peut-être qu'il doit fermer un peu son pied là, mais belle parade portier strasbourgeois.
C'est bien reparti pour les Nantais à Strasbourg. Montpellier-Toulouse, ça a repris également, Julien Landry.
Ouais, reparti depuis 40 secondes avec la pluie également qui est en train de retomber, de redoubler d'intensité. 3-0 pour les Toulousains. On a dû sûrement parler fierté, orgueil à la mi-temps dans les vestiaires montpelliérains. Ça marche, Seb, quand t'es joueur? Ouais, ça serait bien de remporter la deuxième mi-temps, ou c'est un discours qui sert à rien?
Franchement, ça ne sert pas à grand chose.
Ah ouais.
Ouais, non, mais c'est vrai. Après, il faut être professionnel. On ne sait jamais. Il a dû dire qu'il faut marquer un but dans le premier quart d'heure pour espérer. Il n'a pas effectué de changement.
Non, aucun changement. Non, aucun changement. Tous les Montpellierains sont à l'échauffement, mais non, pas de changement à la mi-temps.
Pas de changement pour l'instant. On verra ce que ça donne dans les 20 minutes qui suivent, s'il y a un réajustement ou pas de la part de Jean-Louis Gasset. Arsenal-Liverpool, c'est la première ligue. Arnaud Valadon.
Un but partout à 6 minutes de la pause entre Arsenal et Liverpool après le but de Saka, l'égalisation de Van Dijk, qui est quand même depuis un bon quart d'heure. C'est une domination d'Arsenal, notamment sur le côté droit avec Bukayo Saka qui revient d'une blessure contractée avec l'Angleterre lors de la trêve internationale. Il fait son retour, il n'était pas là lors de la victoire en Ligue des Champions contre le Shakhtar pour Arsenal, mais ils ont du mal à trouver la clé dans cette défense de Liverpool pour l'instant. Résultat donc, un but partout à 6 minutes de la mi-temps.
Et sur les terrains de Ligue 1, on est reparti dans la deuxième période. On va faire un point temps et score avec vous tous. Maxime Tilliette, Nice Monaco pour commencer.
Un partout, les buteurs. Mbolo pour Monaco, Guessant pour l'OGC Nice. Vanderson a été expulsé, donc les Monégasques réduits à 10, un partout.
Montpellier-Toulouse, Julien Landry.
3-0 pour les Toulousains, repartis depuis 2 minutes. La première véritable situation pour les Montpellierains à l'instant est la parade de Guillaume Rest.
Et puis Strasbourg-Nantes avec Sébastien Ruffet.
5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et c'est Strasbourg qui mène 1-0 grâce à André Santos à la fin du premier quart d'heure.
Allez, le multi-ligue 1 avec Seb Piocel et vous tous sur les terrains. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Et Sébastien Piocel, début sur toutes les pelouses, la Ligue 1, le temps, le score partout. On va commencer avec toi Julien Landry à Montpellier, Montpellier-Toulouse, parce qu'il y a eu un événement important.
Effectivement, le carton rouge de Teddy Savagnier, mais voilà, il y a beaucoup de, il y avait beaucoup de crispation, de tension chez Teddy Savagnier, un geste d'humeur contre un Toulousain, le bras dans le visage du Toulousain, carton rouge derrière, sorti sous les sifflets de la Mosson, ce qui a agacé Jean-Louis Gasset, qui a demandé pourquoi le public le sifflait alors qu'il aurait mérité d'être applaudi. Mais oui, c'est une soirée cauchemardesque. 3-0, carton rouge direct contre le capitaine qui va être probablement absent 2 ou 3 journées. C'est vraiment le pire des scénarios pour le MHSC ce soir. Non, ils n'avaient pas besoin de ça, clairement.
Après le geste, on voit, c'est de la frustration.
Oui, c'est ça.
Il le montre d'ailleurs à l'arbitre. C'est un peu avec l'avant-bras, c'est un peu pour se dégager. De toute façon, je le trouve un peu sévère, mais bon, en tout cas, il n'y a rien qui va du côté de.
Non, il y avait une situation pour les Montpellierains, Wabi Kazri qui avait lancé dans la profondeur Arnaud Nordin, et monsieur l'arbitre qui estime qu'il s'est aidé de la main pour amener ce ballon, alors que clairement non. En tout cas, c'était pas volontaire le geste. Mais oui, quand ça ne veut pas sourire, rien ne sourit aux Montpellierains ce soir. 3-0, 53 minutes de jeu à la Mosson.
Nice-Monaco, le temps, le score est également avec toi, Maxime Tiquet.
Et bien, on joue depuis 10 minutes dans cette seconde période, toujours un partout au tableau d'affichage et les Monégasques réduits à 10 qui subissent. Là, ils viennent de laisser passer l'orage. Attention, en revanche, le ballon dans le dos. Il est passé. Evan Guessant, il s'en remet de la balle. L'arrêt énorme de Majewski qui permet au sien de rester un partout. C'est pas fini, Boga. Il arrive lancé. Le centre au deuxième poteau. La tête de Shaw, elle est claquée. Mais elle est captée encore une fois par Majewski qui permet au sien de rester un partout. Ça se complique parce que les Monégasques essayent malgré tout, malgré le fait d'être réduits à 10, de jouer proprement au sol, de ressortir face au pressing des Niçois. Et les Niçois qui la viennent de se créer, Seb, une vraie situation de but d'eux-mêmes avec ces deux tentatives captées par le gardien monégasque.
C'est Melvin Barr, hein, qui met le ballon par-dessus là pour Guessant.
C'est fort probable, ouais, puisque ça vient de la gauche comme ça.
Et bon, après l'arrêt il est magnifique, mais c'est surtout la tête d'Ali Chou. Il a remis juste sur le gardien alors que bon, il y avait quand même la place pour.
Et là, c'est la frappe et la barre derrière, ouais, c'est les monégasques.
Ça fait 2-1 pour Strasbourg avec cette action magnifiquement construite qui arrive côté droit, le centre à ras de terre, c'est loupé une première fois, mais au deuxième poteau qui traîne par là, et bien André Santos qui cite tout simplement un doublé pour mettre peut-être le Racing Club de Strasbourg à l'abri. On joue depuis 57 minutes à la Méno et ça fait 2-0 pour Strasbourg face à Nantes.
Ouais, et c'est pas parce qu'ils sont réduits à 10 les Monégasques qu'ils ont abandonné l'idée de remporter cette rencontre. En revanche, c'est Guessant encore une fois qui attaque et ça va aller petit filet cette fois-ci. Il y a quelques secondes, c'est la barre de Marcin Bouka qui a été heurtée sur une frappe de Lamine Camara à l'entrée de la surface de réparation. Bouka la touche, mais derrière il est tout de même sauvé dans un second temps par sa barre transversale et ça va d'un but à l'autre puisque désormais il y a un corner pour les Niçois après la belle incursion encore une fois d'Evan Guessant, mais Majewski était bien présent au premier poteau pour éviter que le ballon n'entre dans sa cage. C'est un peu fou dans cette rencontre, ça s'anime et c'est tant mieux pour le spectacle. Le corner va être frappé rentrant par le pied gauche de Mohamed Ali Chou au niveau du point de pénalty et c'est dégagé de la tête par Thilo Kerrer qui est présent sur quasiment tous les ballons en cette seconde période. La 58e est donc un partout entre Nice et Monaco.
Il y a 3-0 pour Toulouse sur la pelouse de Montpellier, 2-0 pour Strasbourg face à Nantes. Un petit point également, Première Ligue, Arsenal Liverpool, Arnaud Valadon.
Avec le score qui a bougé, Arsenal qui mène désormais 2-1 après un arbitrage vidéo interminable pour savoir si au millimètre près il y avait hors-jeu ou pas de Merino. Eh bien non, Arsenal qui mène 2-1 avec cette tête de Merino. Magnifique coup franc frappé par Declan Rice. Il est venu placer sa tête au deuxième poteau et donc les Gunners reprennent les commandes de cette partie. Il reste encore 45 secondes à jouer dans le temps additionnel de cette première mi-temps et 2-1 pour Arsenal face à Liverpool.
Et c'est une journée spéciale classique sur RMC bien sûr. Marseille-Paris Saint-Germain ce soir en clôture de cette 9e journée, les abords du Vélodrome. Nico Pelletier, salut, tu es avec nous en direct avec du monde.
Salut Marina. Exactement, je suis avec trois supporters de l'OM, je suis avec Gabin. Comment tu sens ce match là dans quelques heures, comment tu le sens ce match?
Je sens que ce classico va être bouillant. Là je pense qu'on va les écraser ce soir. J'ai rarement vu une telle ambiance au Vélodrome. Ce soir ça va être une dinguerie et on va gagner ce match. On va gagner ce classico.
Louis, il y a aussi un match spécial dans, dans ce match, c'est le match d'Adrien Rabiot qui était il y a quelques années au PSG, là, qui joue son premier classique avec, avec l'OM.
C'est sûr que c'est spécial pour lui, mais s'il peut marquer à la 93e, enlever le maillot et le mettre en face du virage sud, on sera content, hein.
On le cache pas, hein. On le cache pas.
Et on termine avec Sacha. Le prono, Sacha, c'est pour toi. Quel prono ce soir?
Moi, ce soir, je pense que ça va être un match nul. Voilà, je vois bien un score de 1-1 avec un très bon match, très serré. Et allez l'USE, club Aveyronnais.
Voilà, ils ont passé leur message. Et voilà, ils sont très chauds sur le parvis du Stade Vélodrome. On attend 66 000 personnes ce soir et le parvis est plein à craquer avec des bombes agricoles dans tous les sens et des fumigènes dans tous les sens sur ce parvis du Stade Vélodrome.
Voilà, le Vélodrome s'apprête à un grand, grand soir. Merci Nico Pelletier, dispositif exceptionnel sur RMC bien sûr pour vous accompagner autour de ce classique. Allez, dans 40 minutes, hein, le Bartoli Time, ce sera sur place en direct du Vélodrome. Benoît Chéroux invité, puis ensuite toute la soirée jusqu'à 1h du matin en direct du Vélodrome avec toutes nos équipes sur place. Le classique mais aussi le derby. Le derby, c'est le match, l'un des matchs de cet après-midi, bien sûr. Maxime Tilliette
avec Guessan qui va frapper, ça passe au-dessus. Il était dans la demi-lune à l'entrée de la surface de réparation gardée par les Monégasques, alors qu'il y a quelques instants de cela, c'était les Monégasques qui étaient à l'attaque. Mais la passe de Kerrer a bien été lue et interceptée par l'arrière-garde de la SM. Et un changement côté niçois Francaise qui décide de faire entrer Gaëtan Laborde, qui était titulaire cette semaine en Coupe d'Europe jeudi soir sur la pelouse de Ferencváros. Et c'est Mohamed Alicho qui cède sa place pour la dernière demi-heure de cette rencontre. C'est vrai que les bancs vont peut-être faire la différence. Forcément, côté niçois, il a amputé de pas mal de joueurs avec les absences, et notamment celle dont on rappelle de dernière minute de Jonathan Klaus. Mais là, Gaëtan Laborde qui va apporter son expérience et sa science du but dans cette dernière demi-heure pour les niçois qui évoluent, je le rappelle, en supériorité numérique depuis l'expulsion de Van Dersen en fin de première période. Un partout, la 61e.
On ira à Strasbourg. Strasbourg-Nantes dans un instant. Mais avant cela, c'est la pause. C'est la mi-temps. En Angleterre, Arsenal, Liverpool, Arnaud Valadon.
Avantage Gunners, 2-1, Saka Merino contre un but de Van Dijk. Elle est plutôt logique au vu de la physionomie de cette partie.
Alors, logique ou pas, cette domination strasbourgeoise 2-0 face à Nantes. Seb, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on a vu la première période où des Nantais revenaient avec d'autres intentions, mais bon, ils se sont pris rapidement le deuxième.
Ouais, et puis André Santos, quand même, malgré son positionnement un peu plus bas, là, c'est quand même son cinquième but de la saison, donc il fait une grosse impression. Ouais, les Strasbourgeois, ils sont pas dans la gestion, mais comme je disais, c'est une équipe qui est plaisante à regarder. Les Nantais, ils ont loupé l'occasion là, juste à la reprise. Peut-être qu'il y aura un petit peu de coaching aussi de la part d'Antoine Compagnon. On a dépassé l'heure de jeu. Il a quand même quelques joueurs intéressants sur le banc. Maintenant, à moins 2, ça va être c'est compliqué de revenir dans le match.
Ouais, on voit par exemple Chirivella là, à l'échauffement avec Ganago également. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ils ont raté vraiment le coche en début de deuxième mi-temps. Ils ont eu deux grosses situations bien sorties par Petrovic pour revenir à un partout. C'est vrai que ça aurait été une physionomie là, totalement différente. Et derrière, la punition. Parce qu'ils étaient mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps. Les Nantais, ils faisaient une meilleure impression que lors de toute la première mi-temps. Mais voilà, le réalisme d'André Santos, et tu l'as dit, cinquième but déjà pour lui, pour un milieu défensif. C'est quand même pas mal pour l'instant. Il est malin, il est opportuniste, il traîne toujours au bon endroit. C'est un super joueur, on le sait. Et c'est pas pour rien que il appartient à Chelsea. Et qu'il a sans doute un très très bel avenir devant lui.
Montpellier face à Toulouse. Voilà, la situation est toujours aussi compliquée pour les Montpelliérains, hein, menés 3-0. Julien, avec le capitaine Montpelliérain exclu aussi. Hein.
Exactement, Thierry Savanier expulsé. Et la parade à l'instant de Benjamin Lecomte sur un corner qui a empêché le 4-0 pour les Toulousains. Et on vient de faire du coaching côté Montpellierin avec la sortie de Nordin, d'Enzigoula et de Kazri, la rentrée de Touré, d'Otman et de Moussa Tamari. Alors s'il fallait marquer dans le premier quart d'heure, Seb, c'est raté les consignes de Jean-Luc Gasset à la mi-temps. Mais bon, les Montpellierins ont toujours la tête
Ils n'ont pas encaissé, en tout cas.
Ils n'ont pas encaissé, mais ils ont pris un rouge. Mais voilà, on les sent vraiment pas dans cette partie-là. Et attention à cette passe complètement ratée de Tamari avec King pour aller défier le Comte pour peut-être le 4-0, le dribble et le retour du jeune Mwanga qui a empêché les Toulousains de marquer ce quatrième but. C'est pas terminé avec le ballon qui revient pour Gbo, avec King dans la phase de réparation. Le ballon qui traîne dans la phase de réparation. Il y a Silla qui veut mettre sa tête et les Montpellierains qui ont enfin réussi à défendre sur une situation toulousaine. l'heure de jeu, 3-0 pour le TFC.
Les Montpelliérains en infériorité numérique comme les Monégas dans leur derby face à Nice, Maxime Tilliet.
En effet, 27 minutes à jouer, un partout entre Nice et Monaco. Les Monégas qui auraient dû à 10 depuis l'expulsion en fin de première période de Vanderson. Les débats se sont équilibrés sur les dernières minutes.
Et puis je vous rappelle Strasbourg-Nantes, donc 2-0 pour l'instant pour les Strasbourgeois face aux Nantais. On y revient bien sûr, une petite pause dans l'intégral foot et on revient sur RMC, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot, Marina Lorenzo.
Avec Sébastien Piocel, toujours les trois matchs de Ligue 1 de l'après-midi, ils sont animés, il y a des buts partout. On a vu également Lyon se prendre les pieds un peu dans le tapis face à la GIA, un deux buts partout en début d'après-midi. Félix Lebrun qui a été titré à Montpellier, c'est du tennis de table, du WTT, c'est son premier sacre à 18 ans. On a vécu ça ensemble sur RMC, une après-midi très très riche de sport avec la première Ligue aussi, Arsenal-Liverpool, on ira voir Arnaud Valadon dans un instant. La Ligue 1, tout d'abord avec ce Nice-Monaco qui est toujours, toujours indécis, est-ce qu'on peut dire
suspense.
Ça comme ça Maxime?
Exactement, il y a du suspense dans ce derby de la Côte d'Azur, les quatre derniers derby de la Côte d'Azur ont été remportés à chaque fois par l'équipe visiteuse. C'est mal embarqué pour les Monégasques qui sont réduits à 10, on le répète, hein, encore une fois le carton rouge de Vanderson en toute fin de première période, un partout au tableau d'affichage. Mbolo avait ouvert le score et Van Gessant a égalisé. Là ce sont les Niçois qui se portent à l'attaque avec Boudaoui qui peut décaler côté gauche, et Ali Abdi qui va trouver en une touche. Ouais, il lui met le ballon dans le dos derrière Jérémy Boga, c'est pas très bien fait là par les Niçois. Peut-être que la fraîcheur physique et l'apport du banc de touche va jouer. On rappelle que Monaco a deux jours de récupération en plus que les Niçois et un déplacement en moins puisque Monaco a joué mardi soir à la maison, et la frappe là elle est passée assez nettement à côté de Melvin Barr. Monaco a deux jours de récupération en plus et avait joué à domicile, tandis que les Niçois sont allés à Budapest jeudi et ils ont perdu d'ailleurs, et ils sont rentrés dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça va peut-être aussi jouer sur cette fin de rencontre. 21 minutes à disputer, toujours un partout, et monsieur Pignard qui fait signe au gardien monégasque qu'il décompte le temps et donc inutile d'en gagner pour essayer de préserver ce point du nul.
Un but partout entre Nice et Monaco. Il y a l'avantage.
C'est bien fait par Mbolo qui va lancer Minamino, et il rentre dans la surface de réparation. Il a voulu enrouler et le bon retour, c'est Tom Louchet qui va concéder le corner. Ah, les Monégasques qui subissent mais qui par séquence sont capables d'amener du danger. L'appel était plutôt bon là de la part de Minamino, trouvé magnifiquement par un extérieur de Brel Mbolo. Seb, c'est pas évident à gérer une fin de match quand on est à 10 contre 11, mais qu'on se sent en mesure d'aller faire la différence. Sens.
Même pour les Niçois, c'est pas évident à gérer.
Ouais, c'est vrai.
Ils ont envie d'aller de l'avant pour gagner ce match, ce qui est logique parce que c'est un de plus. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de la qualité, il y a de la vitesse. Alors ils sont plus bas, les Monégasques, ils ont moins le ballon, mais à tout moment ils sont capables, à l'image d'un Mbolo qui fait la différence, et de gagner ce match.
Et pourquoi pas sur coup de pied arrêté, frapper à l'instant le corner de Caio Henrique, dégagé au premier poteau. Est-ce que ça va revenir aussitôt? Non, on va repartir vers l'arrière et moins prendre de risques de la part de Crépin Diatta. 20 minutes. Oh, elle est pas bonne, ça passe en retrait. Ça va profiter à la Laborde qui se présente seul face à Majewski. La frappe du gol. Et ça fait 2-1 pour le GC Nice. Gaëtan Laborde, tout juste entré en jeu, qui permet aux Niçois de passer devant dans ce derby. Un bon bol d'air frais pour Francaise et son staff. Les Niçois qui n'ont gagné que 2 matchs cette saison sur 11 disputés. On leur promettait la misère ce soir face aux voisins monégasques. Et ce sont les Niçois qui mènent 2-1 à demi, à 20 minutes de la fin.
Ah ben là c'est cadeau là. Après il faut la mettre la course, le petit piqué de la Borde, mais on sait qu'il sait faire. Et là pour le coup ça va être compliqué pour Monaco, mais il a pas le droit. Diatta, il a pas le droit. Il est à 70 mètres de son but.
Diatta qui est entré en deuxième période et Laborde qui marque après son retour sur les pelouses la semaine dernière. Le but du Niçois qui permet donc pour l'instant au Niçois de mener dans ce derby de la Côte d'Azur. Montpellier, Toulouse, Julien Landry, il y a eu une occasion.
Ouais, Montpellier sauvé par son poteau. Modibo Sagnan, il est aux fraises, il a plus d'énergie, pris de vitesse par Aboukal, le centre à retrait d'Aboukal, et Fala Isako qui ne se comprend pas avec Benjamin Lecomte. Fala Isako qui prend le ballon, qu'il met en retrait. Lecomte est battu et Lecomte sauvé par son poteau. Ça aurait pu faire 4-0. Mais les Montpelliérains sont tout simplement absents de débat, pour être polis. Ils sont même totalement transparents. La seule bonne rentrée, c'est la seule du jeune Hotman qui vient de faire son entrée, qui arrive enfin lui à faire des différences, mais c'est beaucoup trop peu pour ce match-là. Et d'ailleurs les publics montpelliérains qui s'est retourné contre les joueurs et qui finissent par applaudir chaque passe ratée, et elles sont nombreuses dans cette partie. Encore 20 minutes à souffrir pour les supporters payadins. 3-0 pour le TFC.
3-0 pour le TFC, soirée cauchemardesque pour ces Montpellierains, pour la première de Jean-Louis Gasset. On va faire un petit point classement quand même, parce que on le disait tout à l'heure, voilà, Monaco avait la possibilité de prendre la tête du classement provisoirement. Là, il y a le Nice qui revient, qui se repositionne bien quand même, Maxime. Hein. C'est vrai qu'une victoire niçoise, là, ça serait vraiment de bon augure.
Oui, c'est clair, parce qu'on promettait une crise à cette équipe, à ces Niçois, à ce groupe, à Francaise qui était très agacé, les Niçois qui n'ont plus gagné depuis le 8-0 face à Saint-Étienne. Ici même, 6 rencontres sans la moindre victoire, et donc pour le moment, si on en reste là, on n'est plus à l'abri de nos surprises dans ce genre de derby.
Oh, le troisième but! Oh, il y aura hors-jeu. Ah, il a levé le drapeau, mais c'était magnifique. Bakoua qui avait sorti une petite matière là sur un centre de Moreira. Ah, ça va être checké quand même, je pense, parce que le geste il est superbe. Mais l'arbitre de touche a tout de suite levé le drapeau. Mais comme c'est dans ces cas-là, ça va être vérifié. Mais en tout cas, c'est magnifique. Nanasi qui décale parfaitement côté gauche vers Moreira, qui prend l'information, le centre et la petite matière, elle est superbe. Est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu?
Franchement, je
ne
crois pas.
Hein. S'il y a hors-jeu, en tout cas, ça va se jouer à quelques centimètres. Hein. Mais le geste est magnifique. Ce serait.
Pour la beauté du geste, faudrait le valider.
Ah, ouais, voilà, ouais. Ce serait très dur pour ces Nantais, parce que. Ah, ce serait dur à 3-0 pour ces Nantais, parce qu'ils ont eu encore deux situations. Une frappe de Kadewere, une tête de Mostafa Mohamed, deux fois captée par Petrovic. Il y a eu un triple changement également tout à l'heure opéré par Antoine Comboiré. Mais là, 3-0 à un gros quart d'heure de la fin. Il reste 16 minutes 30 à jouer. Là, ce serait la fin de tout espoir pour les Canaries. Bah, je vous propose qu'on.
On n'a pas revu notre ralenti supplémentaire, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient en position de hors-jeu. Alors ça va se jouer à rien comme d'habitude.
Attention, ouais. Attention, la VAR, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit
validée.
Elle dit validée, et la Bédo se lève 3-0, et c'est un but donc pour Dylan Bakoua. Pour porter donc ce score à 3-0 en faveur des Strasbourgeois face à Nantes, et il reste donc un quart d'heure à jouer.
Ouais, on y revient, c'est Sébastien, parce que si cette victoire strasbourgeoise se confirme, ça peut faire basculer un peu les choses dans un sens ou dans l'autre pour les deux équipes. On y revient. Nice-Monaco, Maxime Tilliette avec les Niçois devant.
Oui, ils mènent 2-1, et les Niçois qui sont virtuellement 8e à un petit point de Lyon, 8e avec 13 points. C'est Niçois qui mènent 2-1 à un gros quart d'heure de la fin de ce derby. Les Niçois qui, la saison passée déjà, avaient mis fin à l'invincibilité des Monégasques en début de saison, et qui là sont bien partis pour récidiver. Monaco qui faisait un départ canon, hein, et qui eh bien va sans doute être ralenti chez le voisin niçois. Des changements offensifs de la part d'Adi Hutter, qui n'a pas abandonné l'idée de ramener quelque chose de ce déplacement à Nice, avec l'entrée d'Elias Benseguir et l'entrée également de Georgi Lenikena pour apporter un peu de sang frais, et pourquoi pas essayer d'aller chercher le point du nul sur ce dernier quart d'heure entre Nice et Monaco. Le Gym qui mène 2-1, mais on le rappelle, les Monégasques qui sont réduits à 10 depuis l'expulsion de Vanderson.
Un point temps et score également sur la pousse de Montpellier face à Toulouse. Julien Landry,
18 minutes à jouer encore à la Mosson, 3-0 pour les Toulousains, doublé d'Abouklal, but de King, 3-0 dès la 27e minute, et Montpellier à 10 après le carton rouge de Savagnier à la 50e.
Et Sébastien Ruffet, rappelle-nous Strasbourg Nantes s'il te plaît.
Et bien, il reste un quart d'heure à jouer ici, 3-0 pour Strasbourg, le doublé de Santos et le but, le premier de la saison pour Dylan Bakoua.
Et c'est la pause, la dernière de ce multi-ligue 1 avant de terminer ces trois affiches ensemble, pause sur RMC. On arrive tout de suite.
RMC Intégral Foot, Marina Lorenzo.
Et le dernier gros quart d'heure de jeu sur les terrains de Ligue 1 que l'on va vivre ensemble avec Seb Piocel et avec toi Maxime Tilliette. On revient vers toi pour le derby Nice-Monaco. Ça y est, commence à fatiguer un peu les Niçois.
Oui, et c'est pour ça que Francaise fait des changements. Antoine Mendy qui va remplacer Tom Louchet poste pour poste comme piston droit. Sofiane Diop qui rentre à la place de Boga. Alors non, c'est pas son nouveau look, hein, Sofiane Diop qui arbore un bandeau autour de la tête façon tennisman ou basketteur. Non, c'est parce qu'il a pris des points de suture jeudi soir lors du déplacement à Budapest. Un choc tête contre tête avec d'ailleurs son coéquipier Pablo Rosario, et il s'est fait poser des points de suture en Hongrie. Les Niçois qui mènent 2-1 à 10 minutes de la fin, et côté Monégasque à 18 heures qui joue presque son va-tout hein, malgré l'infériorité numérique. Monaco qui joue avec sa défense à 4, 3 milieux de terrain composés de Golovin, Ben Seguir et Akliouche, et deux attaquants de pointe, Mbolo et Ileni Kena. Il n'y a plus vraiment de milieu récupérateur là-dedans pour essayer eh bien, de créer le danger. Il y a une situation sur un coup de pied arrêté, la tête d'Mbolo qui a été facilement captée par Marcin Bulka pour permettre donc aux Niçois de rester devant 2-1 pour le gym à 10 minutes de la fin.
Ah oui, Monaco qui tente son va-tout pour rester invaincu cette saison, parce qu'on le rappelle, c'est l'une des deux équipes de notre championnat qui n'a toujours pas perdu, et pour l'instant menée donc sur la pelouse de Nice 2-1. Strasbourg-Nantes, la facture est un peu salée pour les Nantais, Sébastien Ruffet.
Oui, pour cette 103e confrontation entre les deux équipes. Hein. On parle beaucoup de classiques. Bah, là, on a un classique quand même du championnat de France. Hein. Deux équipes qui sont là depuis un petit moment. Et c'est vrai que ce 3-0, il est un petit peu sévère quand même hein, pour les Nantais. Même si la première mi-temps a été assez compliquée. Mais ils ont montré de meilleures choses en deuxième mi-temps. Ils ont eu des occasions, notamment une occasion énorme en tout début de deuxième mi-temps avec Douglas Augusto. Mais ces Strasbourgeois ont su resserrer un petit peu la vis. Et surtout, ils se sont montrés cliniques devant le but, tout simplement. Deux occasions. De buts dans cette deuxième mi-temps, et voilà comment on marque 19 buts après 9 journées seulement. On ne parle peut-être pas assez de cette attaque strasbourgeoise, parce que c'est vrai qu'ils encaissent aussi pas mal et qu'ils sont un peu dans ce ventre mou du championnat pour l'instant. Mais tu disais tout à l'heure aussi, c'est intéressant que on peut commencer à regarder un petit peu vers le haut pour Strasbourg avec cette victoire 3-0 qui se profile, parce que avec 10 points tu es un peu plus en train de regarder dans le rétro, alors qu'avec 13 il n'y a peut-être que 3 points d'écart, mais à l'image de Nice tu restes au contact des équipes qui sont devant, qui sont européennes.
Exactement, c'est dans le top 10 là, Strasbourg 9e.
Moi je trouve surtout qu'ils sont récompensés par rapport au travail effectué depuis le début de saison.
Ça finit par payer.
Ouais, et puis ils ont vraiment leur propre style. Alors c'est vrai que là ils sont cliniques, réalistes peut-être, mais bon, ils méritent d'être devant, et surtout voilà, je les ai vus jouer plusieurs fois depuis le début de saison, peu importe l'adversaire. Et voilà, ils vont de l'avant. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils encaissent pas mal aussi. Mais en tout cas, offensivement, ils ont des armes. Il y a beaucoup de mouvements. Ça joue rapidement. Ils sont vraiment agréables à avoir joué.
C'est ce qu'a dit Liam Rosenior, hein, le coach, après la défaite à Paris la semaine dernière 4-2. Il a dit, mais au moins, j'ai la fierté d'avoir joué et d'avoir proposé ce qu'on propose d'habitude. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent contre Paris comme nous, on a joué. Et voilà, et c'est vrai. Alors, c'est vrai que des fois, tu prends un petit peu des buts. Mais en tout cas, c'est plaisant. C'est plaisant à avoir joué. Allez, il reste 8 minutes ici à la Méno, et Strasbourg mène 3-0 face à Nantes.
Avec 3-0 également pour Toulouse sur la pelouse de Montpellier. On vient de voir dans un instant Julien Landry, mais on va tout de suite partir aux abords du Vélodrome, retrouver une nouvelle fois Nico Pelletier, parce que les portes vont bientôt ouvrir.
Exactement, Marina. Il y a eu un petit mouvement de foule, mais dans le bon sens du terme. C'est que tout le monde s'est précipité en haut des marches du parvis du stade Vélodrome qui se trouve sur le boulevard Michelet, parce que tout le monde veut être le premier à rentrer dans ce stade Vélodrome pour assister à ce classique du championnat entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Donc tout le monde s'est projeté en haut des marches, et donc ça a un petit peu calmé l'ambiance sur le parvis du stade Vélodrome, parce que depuis le début de l'après-midi, depuis au minimum 14h, il y a des pétards, des feux d'artifice, des bombes agricoles.
Et Nantes qui revient au score. La frappe là, c'est Guirassy qui a récupéré ce ballon sur le côté gauche. Il revient sur son pied droit. La frappe, elle est pas terrible, j'ai envie de vous dire, mais il est masqué. Elle passe sous le pied de Guéladoué, j'ai l'impression. Et Petrovic est un petit peu masqué au départ. Ça finit dans son petit filet. Et les Nantais qui reviennent dans cette partie. 3-1 avec 7 minutes encore à jouer au chrono.
Allez, on revient te voir, Nico, pour que tu termines de nous donner les infos sur ce Vélodrome qui ouvre avant Marseille-PSG.
Exactement, et dans 5 ou 6 minutes, on va donc avoir l'ouverture des portes avant 2 heures à patienter dans ce Vélodrome. Et puis on a rencontré des supporters des Southwinners, des deux virages de l'Olympique de Marseille. Ils nous promettent un tifo exceptionnel qui met à l'honneur la ville de Marseille. Donc voilà, on verra à 20h45 à quoi ressemblera ce tifo exceptionnel que nous préparent les fans de l'OM.
À tout à l'heure, merci beaucoup Nico Pelletier. À partir de 19h, Bartoli Time en direct du stade de Vélodrome. On vous rappelle, RMC sera sur place toute la soirée jusqu'à 1h du matin pour vous faire vivre ce classique Nantes qui a donc réduit un peu le score face à Strasbourg, mais toujours mené 3-1. Montpellier, Julien Landry, Montpellier, bah, toujours, toujours largement mené par Toulouse.
Oui, encore 9 minutes à jouer et le pire c'est le non-match.
Et c'est long.
C'est long. Et puis non, mais Guillaume Rest n'a rien eu à faire, Seb, de la partie. Il n'a rien fait, le gardien toulousain. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de réaction d'orgueil des Montpellierens en deuxième période, de se dire ben, on va au moins essayer d'aller gagner cette deuxième mi-temps, au moins essayer d'aller marquer un but. Il n'y a pas eu la moindre situation, occasion franche des Montpellierens. C'est un match catastrophique pour les hommes de Jean-Louis Gasset ce soir. 3 buts encaissés et encore l'addition aurait pu être plus lourde, avec un but refusé notamment sur une position de hors-jeu, un carton rouge contre Télis Savanier qui va prendre probablement 3 matchs de suspension. C'est une soirée cauchemardesque et puis surtout il n'y a rien sur quoi peut s'appuyer Jean-Louis Gasset ce soir. Pas d'état d'esprit, pas de révolte, pas de défense. C'est un cauchemar.
Il
n'y
a pas de trêve en fait. Des fois, tu sais, sur les changements d'entraîneur, tu peux avoir une petite trêve internationale. Ah bah, arriver, il me semble que vers le 17, par là.
Ouais, il en reste deux matchs. Voilà. Ils vont au Havre la semaine prochaine et ils reçoivent Brest dans 15 jours.
Et c'est deux matchs, et notamment celui au Havre qui sera forcément sans Savanier.
Je ne vois pas de ressort là.
Non,
c'est ça. Il n'y a aucun ressort ce soir sur lequel s'appuyer pour Jean-Louis Gasset en se disant au moins ça, on peut travailler. Là, il n'y a rien. C'est un néant, une feuille blanche pour Jean-Louis Gasset face à lui après 4 jours d'entraînement. Je ne pensais pas qu'il imaginait un chantier si grand se présenter à lui. 8 minutes à jouer, 3-0 pour le TFC.
4 petits points pour Montpellier pour l'instant, cette 7e défaite de la saison qui se profile sur sa pelouse à la Mosson avec des supporters évidemment complètement dépités face à Toulouse. Arsenal, Liverpool, Arnaud Valadon, on revient te voir. La deuxième période a largement repris. Hein.
Oui, depuis 10 minutes, mais ça n'a pas bougé. Tu n'as rien raté. Vous n'avez rien raté, Marina et Seb. 2-1 pour Arsenal, mais la mauvaise nouvelle puisque Gabriel, touché juste au retour des vestiaires dans un duel, vient de céder sa place. Mauvaise nouvelle pour la défense d'Arsenal qui se passe déjà aujourd'hui de William Saliba qui a pris un carton rouge contre Bournemouth. C'était la défaite la semaine dernière des Gunners, la seule dans ce championnat de Première Ligue. Donc va falloir tenir 2-1 pour Arsenal face à Liverpool, d'autant que les Reds se montrent beaucoup plus dangereux à l'image de Mohamed Salah. Bref, ça promet encore 35 minutes avec du suspense à l'Emirates. 2-1 donc pour Arsenal face à Liverpool.
Et c'est le même score pour Nice face à Monaco. Maxime Tillier, tu sais quoi la tendance? Plus un troisième but niçois ou égalisation monégasque?
Ouais, franchement, très clairement, on est plus proche du 3-1 pour le gym que de le retour au tableau d'affichage à 2 partout pour les monégasques. Monaco qui est réduit à 10 et qui subit dans cette fin de match. Les Niçois qui ont peut-être mal négocié les balles de break. Et attention, parce qu'il va peut-être y avoir un ballon de contre là avec l'accélération de Benseguir. Non, il n'y aura pas faute d'Ali Abdi et donc le ballon est récupéré par les Niçois. 3 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire. Monsieur Pignard fait signe que c'est un contact à l'épaule à Elias Benseguir qui doit se relever. Et les Niçois qui ont la balle, qui en 2-3 passes arrivent plus facilement à transpercer le milieu de terrain monégasque. Milieu, je le rappelle, composé en cette fin de match de Golovin, d'Akliouche et de Benseguir. On tente le tout pour le tout, mais on a du mal à amener les ballons dans la surface de réparation adverse pour les monégasques. Et on va essayer de profiter des espaces avec la Laborde. Il va contrôler, mais se retourner et repartir vers l'arrière. 3 minutes à jouer et 2-1 pour l'OGC Nice.
Ils ont quand même des cannes, alors c'est vrai qu'ils sont en supériorité numérique. Et par rapport au match de milieu de semaine, le retour vendredi matin, franchement, ils ont quand même des calmes, hein, l'Niçois.
Ah, mais le match de jeudi est très très mal passé auprès du staff. Au niveau de l'engagement, l'intensité, des duels, de l'implication, ça a été une très grosse déception. La séance vidéo hier a été rallongée, nous a-t-on dit, pour revenir et montrer ce qui avait été, mais surtout ce qui n'avait pas été. Et puis surtout pour préparer ce match face à Monaco. Alors certes, la première période a plutôt été dominée par les Monégasques qui ont ouvert le score par 2 fois. La première étant refusée pour un but hors jeu. Derrière, le bon travail pour égaliser juste avant la pause sur coup franc. Vanderson qui s'aborde un peu ses coéquipiers en prenant ce deuxième carton jaune qui va le renvoyer au vestiaire un petit peu bêtement. Et derrière, les Niçois qui ont déroulé, qui ont quand même profité aussi de la passe en retrait totalement ratée de Crépin Diatta pour prendre les devants. Et les Niçois n'attendaient que ça. On leur promettait une soirée très compliquée puisque Nice avait une liste d'absence pléthorique, avait les jours de repos en moins différent par rapport au Monégasque, qui avait une dynamique totalement opposée. Et finalement, eh bien, ce sont les Niçois qui vont réussir sans doute, si on en reste là, eh bien, à sortir vainqueur de ce derby. Deux minutes à jouer dans le temps réglementaire et le Gym qui mène 2-1, le Gym en supériorité numérique.
Grosse surprise pour l'instant, surpris ou pas Seb, par ce résultat qui se profile là?
Alors surpris, oui, parce que Monaco c'est quand même l'équipe de ce début de championnat. On rappelle que si en cas de victoire, même en cas de nul, il prenait la tête seule du championnat avant le classique ce soir. Puis surtout par rapport à la force qu'ils peuvent dégager depuis le début de la saison. Alors, ça, ils avaient fait 0-0 la semaine dernière contre Lille. Mais puis après, c'est vrai qu'il y a eu cette deuxième mi-temps à 11 contre 10 pour les Niçois. Et je les sentais capables, moi, de faire un autre résultat. Et finalement, on va dire que c'est une demi-surprise, mais ça reste quand même un derby.
Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Le carton rouge, franchement, c'est Vanderson qui est dégoupillé un peu. C'est pas nécessaire d'avoir ce geste d'humeur. Ouais, la passe en retrait. Hein. Attention, la frappe tout de même de Ben Seguir, elle est captée par Marcin Bulka. Ben Seguir qui était à plus de 30 mètres. Il a tenté sa chance. Pourquoi pas, hein. Wilfried Tsingo a marqué de 35 mètres mardi soir en Ligue des Champions. Mais là, c'était trop facile pour le gardien polonais et qui, évidemment, fait tourner un petit peu le chrono en cette fin de match.
Strasbourg-Nantes, Sébastien Ruffet, avec des Nantais qui continuent de pousser.
Ouais, ça essaye. Encore 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Mostafa Mohamed qui n'est pas récompensé parce que il y a une faute qui est, je crois, sifflée contre lui alors qu'il pensait avoir récupéré un corner.
Il n'avait rien. Hein.
Si, bah non, il n'y a rien du tout. Non, je viens de revoir l'image. Alors s'il y a bien un joueur, franchement, qu'on pourra, enfin, on peut pas lui reprocher de pas se dépenser, c'est bien Mostafa Mohamed, hein, parce qu'il continue à aller au pressing, à traverser tout le terrain pour aller presser le porteur du ballon. Grosse débauche d'énergie pour lui, mais malheureusement sans réussite. Ils ont eu la possibilité, les situations, les Nantais, mais là ce sera un petit peu compliqué. Il y aura 5 minutes de temps additionnel ici. Il faudrait marquer très vite, hein, pour les Nantais, pour espérer peut-être faire une petite chose un peu folle dans cette fin de match. Mais pour l'instant, les Strasbourgeois gèrent parfaitement leur avance. 3-1 pour Strasbourg face à Nantes. Et il reste donc 4 minutes 30 à jouer dans le temps additionnel.
Et on est rentré dans le temps additionnel aussi du côté de Nice, Maxime.
Oui, 4 minutes annoncées, 15 secondes déjà de passer. Ce sont les Niçois, hein, qui ont la balle. On va rentrer dans la surface de réparation avec Sofiane Diop. Ça s'est refermé devant lui, il va repartir vers le poteau de corner. La dernière défaite des Monégasques en match officiel, c'était le 28 avril dernier à Lyon, une défaite 3-2. Depuis, ça fait 25 matchs et comme la saison ça va s'arrêter en effet, sauf ce et qui était interminable en effet, mais comme la saison passée, c'est Nice qui devrait mettre fin à la série d'invincibilité de ces Monégasques. Le corner tout de même des Niçois, non, ça va pas être joué tout de suite. Il y a encore, ça aura vraiment été un derby au niveau de la tension. Il y a eu 2-3 situations de tête contre tête, ce qui a notamment valu un deuxième carton jaune à Vanderson qui sera rentré au vestiaire plus vite que tout le monde, expulsé par Monsieur Pignard. Et les Niçois qui là sur ce corner vont le jouer à 3 avec le bon appel, le Pablo Rosario, le petit pont, c'est bien fait, et on est en surface, le centre, ça va arriver au point de pénalty, c'est dévié, le ballon qui traîne et le danger qui est éloigné par Alexander Golovin. 3 minutes à disputer, mais les Monégasques n'arrivent plus à franchir la ligne médiane depuis quelques minutes.
Montpellier-Toulouse, on n'est pas encore dans les arrêts de jeu de ton côté, Julien.
Je crois que les Montpellierais aimeraient bien que ça soit fini, qu'ils soient rentrés au
vestiaire. C'est un calvaire même pour eux, même pour les joueurs.
C'est un calvaire pour tout le monde, pour les supporters. Et puis le retour au vestiaire va forcément être difficile avec Laurent Nicolin qui va sûrement leur dire des mots pas très agréables. J'avais déjà eu honte la semaine dernière.
Il vaut mieux rien dire.
Voilà, à un moment donné, la semaine dernière, la grosse claque face à l'OM, mais comme tu le disais, avec alors bien sûr 5-0 c'était très lourd, mais il y avait quand même eu des opportunités,
il y avait eu des choses
là face à une équipe on va dire de Toulouse qui fait un début de saison très moyen. C'est lourd. Là, il y a eu des changements. Il y a des joueurs que je connais même pas, en fait.
Le petit Hotman, là, le numéro 14, qui a fait une très bonne entrée.
Il y a un jeune qui a remplacé aussi Jordan Ferry, non?
Ouais, exactement. Gabriel Barrès. Mais oui, on fait partie.
Mais comme quoi, il y a pas énormément de solutions non plus et de ressorts.
Après, l'infirmerie est toujours aussi pleine, notamment en défense. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Les 20 dernières secondes à la Mosson, 3-0 toujours pour le TFC.
Allez, on va se concentrer sur ce derby de la Côte d'Azur, Nice-Monaco. Il est indécis. On joue les derniers instants, Maxime.
Oui, 1 minute 20 à disputer, les Monégasques qui étaient dans le camp des Niçois. Mais le tacle est parfait de la part d'Antoine Mendy qui, en plus de ça, retouche le Monégasque et donc récupère le 6 mètres au lieu de concéder un corner. Là, en revanche, il va y avoir un coup franc pour les Monégasques, mais dans leur camp. Vanderson, non, vu qu'il a été expulsé. C'est Golovin qui lève la tête aussitôt, qui cherche une solution, mais qui ne pourra pas le jouer rapidement. Il a voulu mettre un long ballon. Finalement, il va glisser à Wilfried Tsingo qui peut gagner du terrain. Il est dans le camp des Niçois désormais. Et il va aller chercher à droite. Et elle a Cliouche qui loupe totalement son contrôle. Et ça va filer en touche directement, décidément. Sale soirée pour les Monégasques. Le ballon qu'ils auraient pu se créer une dernière situation sur ce coup-là. Cliouche qui était tout seul et qui pensait déjà sans doute à la suite de son action. Et qui en a oublié le ballon et l'a laissé filer en touche que va effectuer Melvin Barr. Les 30 dernières secondes, évidemment, la Populaire Sud qui donne de la voix et qui vient de chanter notamment Nissa Labella, le long dégagement de Pablo Rosario, le capitaine ce soir, en l'absence notamment de Dante, l'habituel capitaine, le brésilien. Allez, dernier ballon, Kerrer qui fait signe à tout le monde de monter. Il a le ballon dans les pieds, mais il n'arrive pas à envoyer un long ballon. Si c'est chose faite, il a pu contourner la board. C'est dévié une fois, deux fois. Il est Nikena à la retombée. Ça va revenir. On va essayer de centrer. Il y a Diatta, il y a Cliouche désormais. On va renverser le jeu avec Ben Seguir. Ah, ces Niçois, ils ont du mal à se dégager sur cette dernière situation. Kassou Ouattara qui va centrer. C'est contré par Antoine Mendy qui fait une belle entrée. Le jeune joueur formé à l'OGC Nice. Et c'est terminé. La victoire des Niçois, comme la saison Nice, mais comme la saison passée Nice, met fin à la série d'invincibilité de l'AS Monaco. Monaco qui va peut-être laisser filer le Paris Saint-Germain en tête du championnat. Les Niçois qui s'imposent grâce à des buts de Guessant et de Laborde, Brelem Bolo et le buteur monégasque Monaco qui a fini à 10 avec l'expulsion juste avant la mi-temps de Vanderson.
Merci beaucoup Maxime Tilliat. La réaction de Nice après 6 matchs sans victoire et qui inflige donc sa première défaite à la SM cette saison. Tu l'as dit, Strasbourg-Nantes, les derniers instants avec toi Sébastien Ruffet.
Ouais, il reste 15 secondes, il y aura peut-être un tout petit peu plus parce qu'il y a eu un double changement et une petite incompréhension parce que M. Benelhadj avait fait reprendre le jeu entre les deux changements strasbourgeois et donc il a demandé à Alban Lafont de retirer son 6 mètres. Allez, le ballon pour les Nantais qui vont essayer de pousser une dernière fois pour peut-être aller mettre un deuxième but dans ces toutes dernières secondes. Sur le côté droit avec Liam Roseigneur qui continue dans son style à lui, voilà, être avec ses joueurs à faire des allers-retours, à les encourager, à taper des mains tout le temps, y compris jusqu'à la 95e minute. Ce sera repoussé par la défense strasbourgeoise avec Félix Le Maréchal. Voilà, on a fait pas mal tourner aussi, hein, côté strasbourgeois avec des joueurs comme Edouard Sobol là, qui touche le ballon. Ça fait un petit moment qu'il a pu rejouer. Et est-ce qu'il y aura une faute qui va être sifflée? Oui, Monsieur Benelhadj qui laisse poursuivre. On est passé à mon chrono depuis 30 secondes, hein, au-delà des 5 minutes de temps additionnel qui avait été prévu. Et ça se chicote un petit peu là avec Zézé et Habib Diarra. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas bien vu. Voilà, carton jaune pour les deux hommes. Voilà comment prendre un carton très bête des deux côtés alors qu'on joue la 96e minute d'un match qui est déjà plié. Voilà, après, pour la passe plainte, c'était suspendu dans deux journées après avoir pris un carton jaune bêtement comme ça. Voilà, c'est j'ai toujours du mal un petit peu à comprendre. Allez, un long ballon et voilà, Monsieur Benelhadj qui délivre la Meno qui attendait avec impatience ce coup de sifflet final. Strasbourg qui réalise une très belle opération en plus d'une très belle prestation sur le terrain. Victoire 3 buts 1 avec le doublé d'Andrei Santos qui en profite pour mettre son 5e but de la saison, le but de Dian Bakua, magnifique, je vous le recommande, la petite Madjer pour le 3-0. Et Guirassy en fin de match avait réussi lui à mettre son 2e but de la saison, le jeune attaquant nantais très prometteur, mais ça n'aura pas suffi pour les Canaries.
Merci beaucoup Sébastien Ruffet, bonne soirée à toi. Et Strasbourg est 9e avec ce succès sur la pelouse de Nantes. Montpellier-Toulouse, Julien Landry pour les derniers instants là aussi.
Ouais, les Montpellierains qui pourront remercier Benjamin Lecomte dans cette deuxième période qui vient encore de faire une parade à l'instant parce que sans un grand Lecomte dans cette deuxième période, le score aurait pu s'approcher de celui de la semaine dernière contre Marseille ou de celui du Parc des Princes contre Paris où ils en avaient pris 6. Ils ont quand même pris des sacrés fessés cette saison les Montpellierains et ce sont les dernières secondes du temps additionnel avec M. Léonard qui va accorder un dernier coup franc aux Montpellierains, mené 3-0 avec ce but dès la 6e minute d'Abouklal, doublé à la 9e, King à la 27e, rouge pour Savagné à la 50e. Alors la seule bonne nouvelle pour Jean-Louis Gasset ce soir, c'est qu'il n'aura pas de blessé et que le match est terminé à l'instant sous les sifflets encore plus nourris qu'à la mi-temps ici à la Mosson où les Montpellierains n'y arrivent pas et s'enfoncent toujours un peu plus au classement.
Et merci Julien, pensée pour les Montpellierains, pour Jean-Louis Gasset, courage pour les prochains matchs. On va faire le point également sur Arsenal Liverpool. Arnaud Valadon, ça n'est pas terminé en première ligue.
Il reste 24 minutes, 2-1 pour Arsenal face à Liverpool, mais attention, grosse pression des Reds qui ultra domine cette deuxième mi-temps. Arsenal qui donc mène d'un but à la 67e, 2-1.
Merci mon cher Arnaud, merci Seb, à la semaine prochaine.
Merci à vous. Au revoir.
Ça a été très animé, très intense ce multi. Merci. Maintenant, c'est la spéciale classique évidemment au MPSG avec Bartoli Time. Jean-Louis Tour et Marion Bartoli en direct du Vélodrome. Bonne soirée classique à tous. Salut, à la semaine prochaine.
RMC, 19h20.
Bartoli Time.